Malheureusement, la rubrique nécrologique ne s'arrête pas là, puisque je rappelle que dans les 15 jours qui viennent de s'écouler, nous avons successivement connu la disparition de notre collègue et ami pour certains, Arlette Coussy, première adjointe au maire de Palavas, vice-présidente de l'agglomération, décédée subitement. Nombre d'entre nous étaient présents à ses obsèques, je les remercie, ces personnes. De même que la disparition de l'ancien maire de la Grande Motte, Henri Desnoyers, qui était dans la mandature précédente notre collègue au sein de la communauté d'agglomération, puisqu'il en était le vice-président. Une note un peu plus solidaire, celle du Téléthon, dont je salue la tenue le week-end dernier, et dont je salue surtout la collaboration des très actives des associations pour justement porter cette parole et ces actions, en sachant que nous avions accueilli la présidente à Carnon avec nos collègues Laurent Hénin, Laurence Gély et Béatrice Faucompré pour une allocution annuelle et la tenue annuelle d'une réunion qui mobilisait, qui disait un petit peu la feuille de route du Téléthon pour l'année 2019, avec la présence de familles impactées et surtout des messages d'espoir et de solidarité. Je salue également la mobilisation de lundi dernier relative à l'incinérateur, à l'incinération souhaitée et obtenue, en tout cas au niveau des études, nous étions nombreux, pour défendre justement cet incinérateur dont la capacité, nous le souhaitons, soit ramenée un jour à 60 000 tonnes, alors que les propositions du président plaidaient pour le double, 120 000 tonnes, en sachant qu'aujourd'hui nous en sommes pratiquement à 90 000 tonnes. C'est un problème de santé publique, avant d'être un problème d'argent, avant d'être une question d'argent. Donc, je suis très heureux, et en tant que maire de cette commune, je suis vraiment ravi de voir que la mobilisation a payé, que toutes obédiences confondues, d'un village à l'autre, il n'y a pas eu une situation clivante, il y a eu un sujet environnemental et un sujet surtout de santé publique qui a été bien traité. Je souhaite bonne suite à cette. Nous souhaitons bonne suite à cette étude qui impacte notre territoire, en pensant particulièrement à nos collègues de l'ensemble, de l'Univielle et de Valère. Voilà. Notre collègue Alain Foucaran a défendu la position de la commune, puisqu'il est élu délégué au syndicat Piquet-Étang. Dire également, mesdames et messieurs de l'opposition, que nous avons une salle à vous mettre à disposition depuis la disparition, entre guillemets, de la salle Estève. Donc, nos services se mettront en relation avec vous dans les jours qui viennent pour définir les modalités pratiques, hein, la clé, la sécurité, ainsi de suite. Hein. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Et ensuite, je demande à Christian Clavry de vous rappeler peut-être l'anniversaire symbolique. Christian.
Monsieur le maire, mes chers collègues, merci, monsieur le maire, de m'avoir accordé ce soir tant de paroles malgré l'ordre du jour très chargé. En effet, il m'a paru important de souligner, de rappeler qu'il y a 70 ans, le 10 décembre 1948, était adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. Il y a 20 ans, le 10 novembre 1998, notre ville recevait Stéphane Hessel, ambassadeur émérite de France, qui répondait à l'invitation de l'association Servir la paix pour évoquer les 50 ans de cette même déclaration. Au cours d'une soirée inoubliable, après une lecture jouée des 30 articles de la déclaration par les élèves de l'école Albert Camus, il nous livra son témoignage. J'ai eu pour privilège de participer à la rédaction du premier volet de cette charte des droits de l'homme. La commission comptait 12 membres et était présidée par Madame Eleanor Roosevelt, veuve de Franklin Roosevelt. La France y était représentée par René Cassin. Puis, elle passa devant la commission du Conseil économique et social, où le représentant de la France était Monsieur Pierre Mendès-France. Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme fut adoptée. Ce fut dans les salles hâtivement aménagées du Palais de Chaillot où la France accueillait la troisième session de l'Assemblée générale, nous, les membres du secrétariat, occupions les sièges du fond. Quand le président ouvrit le vote, nous eûmes un serment de cœur. L'URSS voterait-elle contre? S'abstiendrait-elle? Que ferait l'Arabie saoudite? Le président annonça 43 pour, 0 contre, 8 abstentions. Peut-être un des instants les plus émouvants de ma vie. Et il ajouta, certainement, un des derniers moments consensuels de la communauté internationale. Déjà, Staline prenait ses distances et Churchill avait créé l'expression « rideau de fer ». Il est remarquable de noter que, quelles que soient les vicissitudes internationales, que le texte soit plus ou moins bien appliqué par ses signataires, il n'a jamais été aboli et est reconnu comme étant le fondement du droit international relatif aux droits de l'homme. Dans ses 30 articles, il se réfère aux valeurs définies dans la Déclaration des droits de 1789 et celle du préambule de la Constitution de 1946, valeurs au nom desquelles Stéphane Hessel nous demandait de nous indigner avant sa mort en 2013. Pour conclure, car il y aurait encore tant de choses à dire, et j'ai promis de faire bref, il serait bien que nos dirigeants, de quelque bord qu'ils soient, les relisent, les méditent et s'en inspirent pour définir et mettre en œuvre leur politique. Je vous remercie.
Merci Christian. Voilà, donc on est dans le symbole. La brièveté étant toute relative dans ce symbole. Voilà. Bien. Je termine avec un petit point d'information, en tout cas avant de démarrer ce conseil, relative à une disposition dans laquelle je ne suis pour rien, qui est celle des commissions administratives, qui se réuniront pour la dernière fois, au plus tard le 9 janvier prochain, pour examiner les demandes d'inscription sur les listes électorales, celles qui sont parvenues jusqu'au 31 décembre 2018, ainsi que les procédures de radiation. Cette étape marquera la fin de l'existence des commissions administratives auxquelles se substitueront les commissions de contrôle prévues par l'article L19 de la loi du 1er août 2016, renouvelable à chaque élection municipale. Voilà. Donc, mesdames et messieurs les anciens titulaires, donc, on se réunira encore une fois et ensuite on laissera place aux nouvelles dispositions. Donc on va sans tarder passer au premier projet de délibération. Pardon ? Décision d'information. Ah oui. D'abord, les décisions municipales relatives au marché que vous avez en page 7 avec les contrats de spectacle. Vous avez ensuite les achats de logiciels pour les procédures adaptées entre 25 000 et 90 000 euros. Les marchés de travaux pour l'avenue Jean Moulin, d'autres logiciens RH, Berger Levrault. Ensuite, une série d'avenants pour le château des comptes de Melgueil, des comptes évêques, en page 11, ferronnerie, des amiantages, peinture, menuiserie, cloison, pierre de taille. Voilà. Donc rien de d'exceptionnel. S'il n'y a pas de questions, je passe à la première délibération que je vous propose, mesdames et messieurs, c'est la subvention exceptionnelle aux sinistrés de l'Aude. Voilà, le 15 et 16 octobre dernier, vous le savez, un violent épisode méditerranéen a provoqué des inondations dévastatrices et des dégâts considérables dans la région de Trèves, Conques et Saint-Hilaire, dans l'Aude. Et donc, comme l'ont fait d'autres maires, d'autres collectivités, comme nous le ferons avec la communauté d'agglomération, je vous propose de répondre à l'appel de solidarité, et même s'il ne nous avait pas appelé, on y serait allé, puisque d'ailleurs, deux de nos collaborateurs ont proposé spontanément, de manière volontaire, d'aller amener du mobilier à Conques, pour l'école de Conques, donc ils y sont allés, avec une voiture de la commune, et ils y reviendront si c'est nécessaire. On s'était mis en relation avec le maire de Conques et celui de Saint-Hilaire, M. Carbonnet. Voilà, je vous propose donc l'affectation d'un montant exceptionnel de 5000 euros qui sera versé, si vous êtes d'accord, au département de l'Aude au bénéfice des communes sinistrées par les inondations du 15 octobre. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle solidarité. Le point numéro 2, alors l'ordre du jour aujourd'hui est essentiellement dédié au débat d'orientation budgétaire, au rapport d'orientation budgétaire, l'Europe, comme il convient de le définir. Avant de laisser la parole, avant de confier la parole à Caroline, Madame Favier, l'adjointe aux finances, je vous rappelle simplement la philosophie de cette année budgétaire qui s'ouvre, qui repose sur d'abord trois années difficiles de 2014 à 2017. Comme vous le savez, les dotations de l'État ont baissé, où nous avons contribué en l'espace de trois exercices à une baisse du fonctionnement, des dépenses de fonctionnement à hauteur d'1,5 million d'euros sur trois ans. Nous avons procédé à des restructurations, nous avons mutualisé, nous sommes entrés dans une recherche d'efficience à travers le projet d'administration, à travers des réorganisations, et l'année 2019 sera le fruit de l'éclosion de certains grands projets, mais qu'il faut voir dans la pluriannualité des budgets. Loin de moi l'idée de nous glorifier cette année, d'avoir une enveloppe environ affectée de 9 millions d'euros qui vont être dépensés, puisque Prévert va être livré à mi-année, 3,5 millions. Le château des comptes de Melgueil va être livré également. L'inauguration devrait se faire au mois de mars, vous en serez averti, bien entendu, un montant de 1,7 million. Nous avons l'avenue Jean Moulin, qui est la dernière avenue structurante pour le compte pour entrer dans Moguio, la première ayant été réalisée dans une antépénultième mandature qui avait commencé par l'avenue Gabriel Allier, projet par Théolus et Buisson-Bertrand. Donc l'avenue Jean Moulin pour pratiquement 2 millions d'euros. Nous avons ensuite la base nautique qui va être inaugurée en février, en principe, pour 1,7 million. Le jardin du Bosquet, enfin, dont nous attendons la tenue de la commission des sites qui a été reportée du mois de novembre. Ah ouais, c'est incroyable, c'est l'Arlésienne. On a budgété, l'architecte a fait le projet, donc on vous le montrera. Il y a des choses très, très intéressantes en termes d'urbanisme, en termes de revégétalisation, en termes d'oxygénation de ce poumon vert qu'est le Bosquet. On va y arriver. La capitainerie qui ne sera pas terminée mais qui sera lancée. Et également le schéma directeur avec la désignation ce vendredi de la maîtrise d'œuvre, puisqu'on va avoir... Enfin, la valorisation des études qui ont été faites par le cabinet Traverse en termes de circulation et stationnement et par l'étude de tourisme qui a été faite également par notre cabinet Pro-Tourisme. Et puis le lancement, on y viendra tout à l'heure, de la Fonde Moguio, qui est le premier programme vocation d'habitat en termes d'extension de la zone habitée, conjointement avec la redensification des centres-villes, donc le tout nous offrant une enveloppe à peu près de 9 millions d'euros. Pour autant, ces budgets ne sauraient témoigner d'une forme d'engagement politique. Je donnerai trois mots simplement pour le budget 2019, dont nous aurons par la suite l'occasion d'étudier les chiffres et les dispositions. Le budget 2019 aura au niveau du quotidien trois dominantes. Une dominante sur la sécurité. Nous avons des questions de sécurité qui reviennent régulièrement, notamment sur Carnot. On n'est pas toujours aidé comme on le souhaiterait par les services de l'État, je le dis. Oui, quand vous envoyez un courrier au mois de février, qu'on vous répond au mois de novembre, et que le courrier est arrivé au mois d'octobre, ça fait un petit peu désordre. Donc j'espère bien, oui, je vous le montrerai, je vous en donnerai lecture. La sécurité, hein. Deux, la propreté. La propreté des dispositions sont en cours d'être prises avec des tâches partagées entre l'agglomération du Pays de l'Or qui a une compétence en termes d'enlèvement des ordures et des déchets ménagers. Mais là, carrément, nous prenons le taureau par les cornes puisque on est dans un pays de bouvines et qu'on est dans un pays où, à moment donné, la propreté doit s'écrire avec un grand P et ne pas souffrir de certaines approximations, comme c'est parfois le cas, quand on n'arrive pas à trouver des moyens plus énergiques. Eh bien, nous y sommes résolus et nous allons les mettre en place avec des dispositions où une brigade va travailler dès le matin à ces tâches à Moggio et à Carnot, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans le prochain conseil et au vœu également. Et enfin, l'éco-citoyenneté, je ne vous apprends rien, l'éco-citoyenneté où chaque citoyen sera concerné par un travail sur la mobilité, sur les modes doux, sur le micro-fleurissement, donc tout ce qui contribue au cadre de vie. Voilà, sécurité, propreté, éco-citoyenneté seront les maîtres mots pour 2019. Et toutes ces bonnes résolutions ne sauraient se traduire sans une assise budgétaire solide, un discours qui ne l'est pas moins. Donc Caroline, je te confie la parole. On va convenir, si vous voulez bien, Madame Favier vous expose des éléments également de rétrospective, puisque le débat
ça fait partie du débat.
Le rapport d'orientation budgétaire est à la fois une petite rétrospective, pas trop longue, et en même temps une projection, avant de vous inviter ensuite à apporter vos commentaires.
Alors, juste un petit rappel avant de commencer sur le rapport d'orientation budgétaire. Il est fait pour nous informer, toute l'équipe, sur la situation économique et financière de la commune en vue du budget primitif 2019 que nous verrons en début d'année. Donc le but, c'est de voir ensemble les orientations budgétaires de la commune en matière de fiscalité, de dépenses de fonctionnement, du personnel bien sûr, la programmation des investissements et de leur financement sur la totalité du mandat, les orientations budgétaires de l'exercice et des engagements pluriannuels qui préfigure sur les priorités du budget primitif et l'évolution de la situation financière de la collectivité. Avant de rentrer dans le détail, il est important de voir les trois mesures qui vont vraiment devoir nous guider sur la réalisation du budget 2019, qui sont les mesures prioritaires dues à la loi de programmation des finances publiques. La première, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé cette année, qui est la limitation de la progression des dépenses de fonctionnement à 1,2%. Donc nous ne faisons pas encore partie des communes qui sommes obligées de le tenir, mais on nous demande fortement de tendre vers. Alors quel est l'impact pour la commune de Moggio-Carnot, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse ici? Vous savez qu'entre 2014 et 2017, la commune a contribué au redressement du déficit public à hauteur de 1 580 000 euros. Et que c'est la stratégie financière et le pilotage qui ont permis de continuer quand même à dégager des marges de manœuvre, de traverser cette période de crise, comme vient de nous dire Monsieur le maire, sans altérer la santé financière de la commune et sans non plus nous bloquer dans nos projets d'investissement. La deuxième mesure qui va aussi être une contrainte, qui est la taxe d'habitation. Donc, vous savez que la taxe d'habitation, il y a un dégrèvement qui a été voté par l'État et que pour l'instant, ce dégrèvement est compensé. Par contre, j'essaie de pas me déstabiliser avec les effets d'éclairage.
Les clignotants sont ouverts.
Je vous promets que je ne veux rien vous cacher. Hein. Donc, pour l'instant, la taxe d'habitation est compensée. Il nous reste quand même la part d'inconnu quand cette taxe d'habitation sera complètement supprimée. Alors, il y a déjà deux pistes, mais pour l'instant, aucune certitude, c'est-à-dire une compensation par un transfert d'impôts nationaux ou alors par la taxe foncière du département. Donc cette inconnue reste quand même présente. Alors un point important, c'est que malgré cette baisse de taxes d'habitation, je pense qu'il est important de remarquer ce soir, de préciser que la commune a fait le choix de préserver le pouvoir d'achat de ses citoyens, et n'a pas profité de cette situation pour augmenter sa part de taxe d'habitation, comme on a pu le constater sur bien des communes. Donc, la troisième mesure, c'est la revalorisation forfaitaire des bases, puisque ça aussi, nous devrons faire avec. Alors, en 2017, cette revalorisation a été une des plus basses, elle était de plus 0,4%. En 2018, elle était d'1,2%. Et depuis 2018, cette évolution est basée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation, ce qui signifie que pour 2019, il y aura une progression des bases qui sera prévue entre 1,7 et 1,9%. Donc, une augmentation des recettes. Au niveau des tendances budgétaires, des grandes orientations de la commune. Donc maintenant, on passe aux recettes de fonctionnement. Alors, quelle est l'évolution des recettes de fonctionnement ? Après 4 années de baisse des dotations, je viens de vous le préciser, c'est-à-dire quand même à hauteur de 1 581 000 sur cette période pour Moguio-Carnon, l'année 2018 est marquée par une légère baisse des recettes de fonctionnement, moins 0,87%. Vous l'avez sur le tableau qui vous est présenté et vous l'aviez dans les documents annexes. La taxe d'habitation et la taxe sur le foncier bâti et non bâti progressent du fait de la revalorisation forfaitaire des bases et pas d'une augmentation. Donc, elle est fixée à 1,2 en 2018 et une augmentation physique de plus 0,5%, puisque vous savez que cette taxe, elle peut augmenter soit par une augmentation des bases, soit par une augmentation physique, c'est-à-dire du nombre d'habitations. Il est à noter que 2018 correspond à la première année de la réforme de la taxe d'habitation, donc qui prévoit la suppression pour 80% des foyers d'ici 2020, et voire 100% ensuite. L'attribution de compensation qui a été versée par l'agglomération du Pays de l'Or progresse, on le voit dans le tableau, de plus 44 000 euros en 2018 en raison du retour de la semaine des 4 jours. C'est-à-dire que la suppression des temps d'accueil périscolaires, les TAP, initialement organisés par les Pays de l'Or de l'agglomération, ont engendré une suppression qui représente 4 dixièmes des charges transférées en 2018. Donc en 2019, ce sera la deuxième année d'application de la réforme de la taxe d'habitation, ça je vous l'ai dit, sur les résidences principales. L'État va compenser, donc ça pour l'instant, on n'a pas de baisse de recettes sur cette question-là. Et au niveau du transfert de charges, ça représente une attribution de compensation qui connaît une augmentation de 111 000 euros. La suppression des TAP, temps d'activité périscolaire, qui entraîne la suppression du fonds d'amorçage, c'est-à-dire la partie qui était subventionnée par l'État à hauteur de 75 000 euros. Donc ça nous fait un différentiel de 36 000 euros. Les économies donc, qui vont être générées par cette suppression des TAP permettent le financement de nombreux dispositifs qui va intégrer différents acteurs de la sphère éducative, puisque tout sera utilisé par la sphère éducative, bien sûr, et qui va comporter différentes actions de modernisation, sécurisation des écoles et amélioration de conditions d'accueil des élèves. Au niveau de la dotation forfaitaire pour 2019, donc sous le double effet de l'écrêtement et de la prise en compte du surclassement, vous savez que la commune, par rapport à la période estivale de Carnon, notre commune est classée dans les strates 40 à 80 000 habitants. Donc, cette dotation sera de plus 48 000 euros. Nous estimons que le montant de l'écrêtement appliqué sur la dotation forfaitaire sera moins important en 2019 par rapport aux exercices de 2017 et 2018, c'est-à-dire un écrêtement pour 2019 de moins 91 000 euros. Je vous rappelle rapidement ce que c'est, parce que écrêtement, ça doit être un peu un terme un peu barbare là. C'est juste l'État adapte notre dotation en fonction de notre capacité à recueillir de la fiscalité. Alors c'est très important politiquement aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça signifie qu'on est prêt à perdre un petit peu de dotation en faisant l'effort de moins fiscaliser nos citoyens. Donc c'est un choix politique qui est fort. Ça permet de rappeler qu'il n'y a aucune augmentation de fiscalité prévue pour les ménages sur les années à venir. On vous avait donné aussi un tableau dans les annexes. Donc en conclusion sur ce budget de fonctionnement, 2018, l'évolution des recettes réelles de fonctionnement se stabilise par rapport à 2017 et la commune n'augmentera pas, c'est ce que je viens de vous préciser, ses taux de fiscalité pour financer les travaux qui sont inscrits et qui restent des travaux ambitieux pour 2019. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc depuis 2013, l'évolution à la hausse a été jugulée. En 2015 a été marquée par une forte décélération et en 2016, la baisse est estimée à moins 3,33%. Cette décélération est principalement due au plan d'économie lancé en 2015 et 2016 et à l'optimisation de la gestion de la dette. À partir de 2017, les dépenses de fonctionnement ont augmenté malgré une augmentation modérée du poste des dépenses de personnel. C'est important puisque cette augmentation était à 1,6%. Cette augmentation, elle est principalement due, vous vous rappelez, à la pénalité due à l'insuffisance des logements sociaux qui s'élevait à 422 000 euros. En 2018, les dépenses de fonctionnement progressent de 2,64%. En 2019, les dépenses de fonctionnement seront maîtrisées à hauteur de 2,5%. Donc ça aussi, c'est un choix politique et qui va nécessiter de tenir le budget, bien sûr, une hausse donc limitée avec des contraintes des charges à caractère général et des dépenses de personnel qui seront elles aussi limitées à 1,65% pour garantir les équilibres financiers. Les intérêts de la dette, on est toujours dans les dépenses de fonctionnement. Les intérêts de la dette sont en diminution de moins 3,03%. C'est essentiellement dû à des prêts qui se sont terminés. Les autres charges de gestion courante, plus 9,89%, c'est en 2018 essentiellement la participation versée au service départemental d'incendie et de secours qui ont augmenté de plus 90 000 euros. Alors maintenant, il est important de rentrer dans quelques informations sur les dépenses de personnel puisque c'est notre budget le plus important. Comme beaucoup de collectivités, les charges de personnel, donc elles sont estimées en 2018 à 14 150 000 euros. Elles représentent le premier poste des dépenses de fonctionnement. La maîtrise de leur évolution constitue donc un enjeu majeur, bien sûr, et sur la période de 2014 à 2018, la masse salariale connaît une augmentation modérée qui correspond à 3% sur la base des estimations des dépenses de 2018. La forte variation en 2015 et 2016 correspond à la prise en charge des nouveaux rythmes scolaires par la ville, puis leur transfert à l'agglomération Pays de Loire. Donc, même chose, vous avez eu des tableaux qui présentent l'évolution de ce budget. Alors, au niveau des évolutions des effectifs permanents, il est important de préciser que maintenant, pour chaque départ d'un agent, que ce soit retraite ou mutation, une réflexion est menée par les services sur l'opportunité de remplacer ou non l'agent en question. La fiche de poste est réétudiée au regard de l'évolution des métiers concernés et des missions du service. Cette réflexion peut également permettre de repenser l'organisation du travail et la répartition des activités entre services. Donc dès lors, le nombre d'agents recrutés sur ces dernières années, on le voit sur le tableau, entre 2014 et 2019, a diminué. Pour 2019, on a 7 remplacements de départ d'agents, 4 de départ à la retraite, un plan de pérennisation sur 3 agents d'entretien pour amener une qualité de contrat et un recrutement par voie de mutation. Vous avez les détails, bien sûr, au niveau des annexes. Au niveau des contractuels permanents, les contractuels sur emploi permanent sont essentiellement recrutés pour le remplacement d'agents fonctionnaires ou contractuels momentanément indisponibles. Leur nombre est variable, bien sûr, d'une année sur l'autre. Depuis 2014, la dépense liée à l'emploi des agents saisonniers a diminué de 14,71%. Cette baisse est la traduction d'une volonté, comme je vous le disais précédemment, de la collectivité de réduire leur nombre et dans les services qui sont peu impactés par l'activité estivale, bien sûr. Malgré ce, et je tiens à le préciser, on a un maintien du seuil d'exigence de la qualité du service public qui est impeccable, et je pense que c'est l'occasion de remercier d'ailleurs tous les services. Depuis 2014, la collectivité a souhaité maîtriser aussi les heures supplémentaires. Une économie a été faite qui est notoire, 71 311 euros depuis 2014 d'économie sur les heures supplémentaires. Pour 2019, il est juste proposé un supplément de 8 000 euros, tout simplement pour le tour d'élection qui est prévu. Au niveau du temps de travail, vous savez qu'il y a eu une modification significative, puisque comme dans le privé, les heures annuelles sont passées à 1607 heures. Donc afin de garantir ce décompte, la mairie de Mobio s'est engagée dans une large réflexion autour de cette question sur le temps de travail. Donc dès lors, depuis 2016, un jour de congé exceptionnel a été supprimé pour l'ensemble des agents. En 2017, c'est le nombre de RTT qui est réduit afin d'être amené à 15 par an, correspondant au nombre devant être attribué aux agents effectuant 37h30 par semaine. Enfin, une large concertation auprès de l'ensemble des services a été menée de façon à ce que ce soit fait, bien sûr, dans une nouvelle organisation du temps de travail qui respecte les obligations de chacun des services. Donc, grâce au gain du temps de travail, avec une qualité de travail équivalente, voire meilleure, on peut dire que l'effet a été vertueux et très positif. Donc, merci aux agents. Ça a permis une augmentation des plages d'accueil, et notamment l'accueil de la mairie ferme plus tard le soir. Et ça a permis d'étendre le périmètre de champ d'action du service public. Alors, en conclusion, sur ces informations de recettes et dépenses de notre budget de fonctionnement, pour maintenir les équilibres, il faut plus que par le passé rechercher l'adéquation maximale entre les ressources et le service public rendu, puisque vous avez vu que nos ressources étaient maintenant limitées et le service public continue à être rendu de grande qualité. Donc la modernisation doit être rapide pour répondre aux changements structurels qui s'opèrent. Des gains de productivité doivent être dégagés. La productivité doit être recherchée à la fois au niveau de l'organisation et de la production du service public. Il faut rendre l'administration efficiente, poursuivre la modernisation des systèmes d'information, construire une offre de services plus efficace en termes de qualité et quantitatif. L'administration se modernise au travers du projet d'administration et de la mise en œuvre d'une approche de pilotage stratégique. Découpage du budget par politique publique, ça vous le verrez lors de la présentation du budget 2019. Démarche d'évaluation des politiques publiques, mise en œuvre des démarches de pilotage de la masse salariale avec une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, structuration des systèmes d'information pour permettre de fiabiliser les process, déploiement des démarches dématérialisées intégrant les attentes des citoyens, faciliter, ça vous avez peut-être déjà testé vous-même personnellement tout ce que vous pouvez faire maintenant directement par Internet, rationalisation et contrôle des process. Et tout ça, en maintenant le fameux effet ciseau repoussé, si cher aux financiers.
Redouté.
Alors, au niveau de la programmation de nos investissements, donc le plan pluriannuel d'investissement et nos capacités d'investissement. En 2018, le PPI, si vous me permettez les abréviations pour le programmation des investissements, jusqu'en 2020 s'élève à plus de 31 millions. Il intègre les travaux liés à la réalisation du schéma directeur du projet de ville de Mobio-Carnot. Le PPI est financé par l'autofinancement, les subventions, les cessions d'actifs et l'emprunt. Le PPI sera ajusté, bien sûr, lors du présentation du budget 2019. La commune prévoit en 2019 la cession d'actifs pour financer en partie ses projets. Alors, les locaux de Prévert à la SPL, puisque vous savez qu'une partie des bureaux sera pour la SPL à hauteur de 600 000 euros. Les terrains de la Pointe de Midaison pour un montant de 414 000 euros. La maison Pélissier, 400 000 euros. À la SPL. Dans le cadre de la fonte, ce sont les...
Il y a déjà des terrains qui devaient être achetés par la mairie au niveau de la fonte de Montgoun. Je ne sais pas si ça avait été acheté, puisque ces terrains appartenant à la mairie devaient être revendus à la salle de l'aménagement. Je ne me trompe pas, ça avait été débattu dernièrement. Alors, quels sont les terrains qui vont être achetés maintenant sur la fonte de Montgoun ?
Et les locaux Agora à hauteur de 75 000 euros.
Tous les locaux ?
Ah non, pas tous.
Une seule.
Donc, à l'instant là, vos documents sont pas à jour, hein, d'ici à la fin.
Eh bien, j'en vends un sur les trois.
On tient la carte,
quoi.
Ah. C'est
la carte. C'est trop pour
moi. Moi, j'en vends, c'est ce qui m'intéresse dans mes propos, parce que c'est ce qui va rentrer dans ma recette. Alors, je vais quand même, parce que je n'y résistais pas, vous parler quand même de quelques ratios, mais vite fait, c'est promis. Donc, si on peut prévoir tous ces investissements, c'est bien sûr parce qu'on a des ratios de grande qualité. Et j'en remercie infiniment nos services financiers qui ont d'ailleurs obtenu une note excellente sur la gestion des comptes de Mobio. Ils ont eu 20,5 sur 20 de notes. Donc merci encore aux services financiers. Ouais.
C'est surréaliste. C'est bon, celui qui est noté, mais c'est pas ça, même celui qui est noté.
L'épargne brute est très satisfaisante puisque supérieure à 10%, c'est ce qui nous permet d'absorber de nouvelles dépenses de fonctionnement, d'investir et de se désendetter. Notre ratio de désendettement est excellent puisqu'il est à 3 années, 5. Et notre effet ciseau, du coup, bien sûr, est repoussé. On avait des petits tableaux quand même. Alors, certains de nos investissements, vous le savez, sont sous la forme d'APCP, c'est-à-dire autorisation de programme et de crédit de paiement. Alors, je vais vous les présenter juste pour faire le point sur ce qui reste, qui sera réalisé en 2019. Au niveau de la réhabilitation de l'îlot Prévert, sur 2019, nous aurons 2 235 000 euros. Au niveau de l'aménagement de l'avenue Jean Moulin, la première tranche, nous aurons 1 090 000. Pour l'aménagement de la rue du Saut du Loup, 250 000 euros prévus sur 2019. Pour la fonte Mobio, la création du fossé nord, 650 000 euros sur 2019. Pour l'aménagement de la rue François Villon, 450 000 euros. Et pour le programme de voirie 2018, il restera sur 2019 410 000 euros. Au niveau des grands projets prévus sur le PPI de 2019, le schéma directeur, bien sûr, 6 millions d'euros entre 2019 et 2024. L'opération ville en lien avec la régie du port, donc il y a la reconstruction de la capitainerie, la porte d'entrée du territoire. Au niveau de l'opération traitée directement par la ville, la reconstruction de la base nautique, qui est déjà financée en partie. La réhabilitation du jardin du Bosquet, l'opération nommée Bloc C avec la mission de mandat de la SPL, donc déportement du stationnement en entrée de ville, réaménagement de la première séquence de l'avenue Gratian-Cibran, aménagement des circulations pour les modes doux de la ville à la mer, la reconfiguration de l'accès à la mer sur Carnon Est, place Cassan et front de plage. L'opération nommée Bloc D, avec la mission de mandat SPL hors aménagement, qui comprend la requalification des espaces publics en 3 tranches, l'aménagement de la promenade du port en 2 tranches, les études jusqu'à l'AVP d'une solution de liaison rive droite et gauche du port. Montant prévisionnel sur le budget communal, 6,9 millions d'euros, TTC. Opération de réfection de l'avenue Jean Moulin. Donc première tranche 1 340 et deuxième tranche 1 million. La réhabilitation du château de Melgueil, 1 600 000. L'îlot Prévert, 3 500 000. Et la base nautique de Carnon, 1 800 000. La réhabilitation du jardin du Bosquet. Voilà, ça ce sont tous les grands projets prévus sur 2019. Alors, je souhaitais vous amener une précision pour vous montrer le travail qui est effectué aussi derrière et qui nous permet de cette rigueur financière. C'est que il y a une mise en œuvre d'une stratégie de recherche de cofinancement qui est très active par les services financiers afin de mener à bien ces opérations d'aménagement ambitieuses et d'optimiser les plans de financement et les recettes. La commune développe une stratégie de cofinancement et de partenariat avec le département, la région, l'État, ADEME, Héro, Énergie, entre autres. Donc, ainsi, elle est parvenue à mobiliser 2,15 millions d'euros entre 2016 et 2018. Alors, j'ai le détail, il y avait 526 000 euros pour le château, 580 000 euros pour la base nautique, 222 000 pour l'îlot Prévert, 215 000 euros pour l'avenue Jean Moulin. En complément, la collectivité a engagé un travail partenarial étroit avec la région et l'État dans le cadre du plan littoral 21 afin d'obtenir d'autres cofinancements définis sur le schéma directeur de Carnon. Au niveau de la gestion de la dette, j'ai pas...
Je voulais juste poser une question. Dans votre étude sur le financement des projets de Carnon, je n'ai pas entendu parler de la réparation du sas du port. Est-ce que c'est tombé à l'eau cette affaire ? Vous deviez voir le président du département et régler avec lui cette histoire de réparation du sas. Je crois que c'était aux alentours de 500 000 euros.
C'est pas sous maîtrise d'ouvrage communal. On reviendra sur ce sujet, monsieur Rapoli. On y reviendra.
Un point rapide sur la dette, pour vous dire qu'on a une dette qui est extrêmement saine. Notre encours est d'un peu moins de 10 millions d'euros. Vous le savez, notre capacité d'endettement est à 3,5 années. Enfin, moi, je trouve ça vraiment bien. Quand on sait que pour une maison à titre privé, on est sur 10 ou 15 ans, enfin, je trouve ça formidable. Donc, une dette saine, une capacité d'endettement performante, des possibilités pour la commune de financer un PPI ambitieux. Je vous ai présenté un rapport d'orientation budgétaire qui recherche une efficience financière, une efficience du service public et des comptes bien tenus. Donc, j'allais dire qu'il n'y a plus qu'à maintenant appliquer le PPI sur 2019 avec des beaux projets.
Merci Caroline, merci Mme Favier. Le débat est ouvert maintenant sur... ce rapport d'orientation budgétaire sur ce que vous avez présenté, monsieur Bourguet.
Oui, moi je voulais revenir sur les investissements là, les cessions des actifs. J'étais un peu surpris de voir qu'on allait vendre une partie de Prévert. J'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Je suis assez choqué même par cela, parce que quand on regarde bien ce qui va rester à Prévert, il va rester 300 mètres carrés pour les associations. Tout le reste va partir. Alors on se disait que peut-être qu'un jour ça pourrait être récupéré, mais si on le vend, ça ne sera jamais récupérable pour les associations. Donc je trouve ça assez dramatique de vendre le patrimoine, de dire qu'on a de l'argent, qu'on a une bonne gestion et de vendre le patrimoine. Pareil pour l'Agora. Je trouve ça scandaleux de vendre l'Agora. On se débarrasse du patrimoine et on nous dit qu'on a de l'argent de côté. Je trouve pas ça du tout logique. Ensuite, pour la maison Pélissier, les 400 000 euros de la maison Pélissier, on voit qu'ils sont affectés aux investissements. J'avais demandé qu'ils soient affectés au social, donc je sais pas ce qu'il en est, parce que c'est quelque chose qui devait revenir au social, donc c'est pas normal que la commune gagne de l'argent sur cette affaire. Voilà principalement ce que j'avais à dire pour le moment.
Bien. Concernant l'îlot Prévert, M. Bourguet, concernant l'îlot Prévert, vos propos sont totalement inexacts. en tout cas, revoyez votre arithmétique, même si au niveau de l'aliénation d'une partie de ce qui est propriété entièrement communale aujourd'hui, la SPL est celle qui va prendre possession d'une partie de certains locaux, avec des clauses qui garantissent ensuite, dans l'hypothèse, il y aura une dissolution ou une disparition de cette société, des clauses qui garantissent une forme de droit de retour. Ce n'est pas encore ficelé. À côté de la SPL, il y a tout le service culturel.
Oui.
Au rez-de-chaussée.
Je déplore aussi.
Non, le service culturel est entièrement sous maîtrise communale. La salle de l'étage, qui devait être une salle éventuellement mise à disposition, sera conservée comme salle communale, comme salle d'exposition. Donc, en définitive, je dirais que c'est peut-être, je n'ai pas étudié les surfaces, peut-être le quart qui reste sous maîtrise publique, puisque la société publique locale, leur aménagement porte bien son nom, société publique locale. Ce n'est pas du tout la société privée, c'est elle avec laquelle nous travaillons au quotidien, c'est celle avec laquelle nous travaillons au niveau de l'agglomération, c'est celle que nous avons portée sur les fonds baptismaux il y a une vingtaine d'années en créant la SEM-ACMEO. Elle est le produit de cette aventure. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous laisser dire que la commune se défait de ce bien patrimonial. Au niveau de la salle Agora, effectivement,
nous avons une société dont l'agglomération du Pays de l'Or est majoritaire.
Et alors
donc voilà, on vend à une société, c'est tout. Même si cette société est une société qui nous appartient, on se débarrasse du patrimoine.
On se débarrasse de rien du tout. Deuxièmement, l'Agora. L'Agora, nous avons 4 salles. Effectivement, nous avons dit que nous allions, à l'instar de ce que nous ferons pour la salle polyvalente, par exemple, qui est Place Mendès France, nous, d'une manière ou d'une autre, nous ne pouvons pas conserver l'entièreté des biens que nous possédions déjà, en y adjoignant d'autres biens. Je vous rappelle que nous avons créé un groupe scolaire comme Prévert, où les surfaces quand même sont supérieures à celles, en ajoutant Prévert, à celles que nous avions initialement. Nous ne pouvons pas, dans le même temps, nous conservons une masse salariale et une personnelle à l'identique, voire en légère diminution. Il est très compliqué d'entretenir un patrimoine dont la destination ne correspond pas à un usage de service public au sens premier du terme. Voilà. Voilà. Donc, fatalement, je vous le dis, la salle, nous allons créer à l'îlot Prévert une salle polyvalente à peu près de 200 mètres carrés. Nous n'allons pas ajouter une troisième salle polyvalente qui s'ajoute à celle de Bassager, qui s'ajoute à la fond de Montguillot. Il y aura dans quelques années une salle multi-activité, mais qui s'inspirera de la reconsidération du quartier aujourd'hui de l'avenue Jean Moulin. On verra ce qu'on fait du gymnase Ferrari, on verra ce qu'on fait de ces préfabriqués qui sont aujourd'hui en face du cimetière et qui nous servent bien pour abriter des associations. Ce sont des endroits destinés à évoluer. Il n'y a aucune stratégie, on fait ça en toute transparence. On ne peut pas, combien vous avez de voitures dans votre famille, M. Bourguet, mais dans ma famille, on n'ajoute pas les voitures, on change les véhicules, souvent on n'en rajoute pas d'autres. Il est difficile d'avoir une traite de vie.
Le foncier, c'est pas les voitures. Hein.
Non, mais le foncier, c'est pas les voitures.
Quand on vend du foncier, on ne s'enrichit pas. Ça n'existe pas.
Mais, monsieur Bourguet, de la même manière que nous avons, en son temps, pour financer la MJC, vendu une partie de ce qui est aujourd'hui la pression de Carmen, on n'est pas des magiciens. Comment pourrions-nous, sans nous séparer de ce qui n'a plus un usage public comme l'était cet espace quand il y avait la MJC, comme c'était cet espace quand il y avait le collège. À mesure, les besoins évoluent. Demain, la maison de la mairie en face de à côté du monument aux morts, trouvera une autre destination. Nous n'allons pas la vendre, nous allons la garder. C'est-à-dire qu'il y a des usages qui font qu'au fur et à mesure, eh bien, nous essayons de gérer au mieux, en fonction des intérêts publics, les locaux dont nous disposons. Après, je vous laisse le soin d'apprécier. D'autres interventions ? Monsieur Pradeil ?
Si vous insistez.
Je reviens sur la question du fonctionnement. L'évolution de la masse salariale de 2016 à 2019, pour qu'on ait un ordre de grandeur, c'est de 13 500 000 à 14 400 000. Donc on est à 900 000 d'augmentation, on est au cœur du mandat. Et on est au moment dans le mandat où on a bien, on n'a plus les effets TAP qui avaient été si brocardés à l'époque. Et on a une augmentation de la masse salariale que je ne suis pas encore en capacité d'étudier, mais j'ai souvenir que vous avez fait un gros travail sur cette question-là. Et malgré tout, vous nous faites une projection d'une augmentation de 900 000 euros. Donc ça méritera peut-être une discussion plus approfondie. Lors du budget. Mais c'est 900 000 euros en 3 ans au cœur du mandat, alors que vous avez affiché une dynamique de consultation, d'application assez stricte des quotas horaires, ainsi de suite. Je me souviens, moi, de discussions assez longues avec le professeur Capelletti. Bon, tout ça pour arriver à 900 000, je suis un peu inquiet. Il y a peut-être des explications. Je sais que là, quand on prend cette zone-là, je ne pense pas qu'il y ait les effets de seuil où il y a eu des revalorisations qui ont été imposées par l'État. Hein, c'était juste avant. Bon, voilà, je pense que ça méritera, quand on aura les chiffres en main dans le détail, qu'on en parle, parce que ça, on n'a pas trop l'occasion de parler de la politique de GRH de la maison. Deuxième, je prends la même question et je vais sur le service, sur la présence et le service public de la maison. Jusqu'à présent, en termes de fonctionnement, on avait un affichage d'une politique de présence de la police municipale qui était discutable. Qui était discuté avec moi. Je me souviens d'avoir dit ça serait bien qu'on ait plus de présence la nuit, qu'on revienne aux tournées de nuit, et ainsi de suite. Et vous avez travaillé sur ces questions-là, puisqu'a priori il y a eu une reconfiguration de votre hiérarchie au sein de la police municipale. J'ai été amené, je le dis très tranquillement. J'ai été amené à discuter dans le cadre du pôle jeunesse, dans un cadre collectif, dans une commission où Mme Sanchez-Bresson a bien voulu m'inviter, à dire que j'avais des retours d'inquiétude à Carnon et de fragilité en termes de sécurité à Carnon, et y compris, j'avais fait passer un message sur la fragilité des jeunes Carnonais qu'il fallait peut-être surveiller, ainsi de suite. Et on nous disait, on n'a pas de retour, on n'a pas de main courante de la police municipale, en disant, si on n'a pas tout vu, il faut peut-être chercher. Je vois là qu'il y a un problème, enfin, il semble maintenant que c'est sur la place publique, qu'il y a des gros soucis de sécurité à Carnon. J'aimerais qu'on... J'entends aussi les garrigues, j'entends mieux ton message. Je ne veux pas minimiser, mais je connais moins bien la question des garrigues. Par rapport à la question carnonaise, on a eu une approche ensemble. Le ministre de l'Intérieur est venu à Montguillot, vous lui avez payé l'apéro, et quand vous avez besoin de lui, il n'est pas là. Donc moi je veux bien qu'on fasse un point, mais jusqu'à présent on avait une politique qui était assez simple, une politique où l'État, sous le gouvernement précédent, consolidait une stratégie de vidéosurveillance et mettait en place une grosse stratégie de surprésence avec la zone prioritaire de sécurité à Montguillot. Je pense que ça a apporté ses fruits. Je pense qu'il y a la satisfaction de tous les acteurs. Il faut dire quand ça a marché. Et là, ça marchait, le service public de sécurité a fonctionné. Il y avait une faiblesse à Carnon. Il fallait absolument faire entrer Carnon en zone prioritaire de sécurité. On se retrouve aujourd'hui à avoir... On n'a pas réussi à aboutir. Vous voyez comme quoi le député Vignal, quand il est socialiste, il est meilleur que quand il est en marche, en termes de moyens. On n'a pas réussi à avoir plus de moyens pour régler les problèmes.
On voit bien là que à Carnon, c'est en train de se détériorer. Donc, il faut faire la part de ce qui relève de l'État. Il faut aller chercher les moyens, il faut dire qu'on n'est pas content. Et il faut voir si nous, en termes de politique municipale, on ne peut pas faire plus de présence. Plus de présence par de la police, plus de présence par les services et par nos partenaires traditionnels pour être plus en proximité avec nos jeunes de Carnon. Donc ça, c'est peut-être une discussion en termes de services publics. Hein, on parle de fonctionnement, on parle de présence, de capacité de mettre de la présence de fonctionnaires au contact de la population, au service de la population. Donc moi, c'est vraiment la conversation que j'aimerais qu'on ait lors du budget. J'ai bien entendu le message qui me réjouit hein, sur le fait que les enveloppes budgétaires d'État, on allait essayer de les redéployer pour les mettre au service d'une politique de jeunesse. Ça a fait l'unanimité de la commission quand on a échangé. C'est une bonne. Donc ça, j'espère qu'on aura plus de détails lors du budget pour savoir comment on peut être en proximité. Il y a peut-être des solutions à trouver de ce côté-là à Carnon. Entre autres, et y compris avec nos partenaires. Sur donc ça, c'était la partie fonctionnement. Après, si vous voulez, je passe à l'investissement, à moins que vous vouliez...
Oui, je fais juste un petit commentaire. Donc, si vous avez bien suivi, j'ai dit tout à l'heure que la sécurité aurait un budget particulier cette année, notamment à Carnon. Je partage ce constat. Quand j'ai dit tout à l'heure que l'État nous laisse un petit peu en rade, on a un gros problème avec les SDF... où un courrier est parti au mois de février a trouvé une réponse. Je rencontre cette semaine des riverains mécontents du Nautilus pour justement leur dire quelles sont les démarches que la commune a engagées, quelles sont les réponses de l'État, quelles sont nos intentions dans les temps qui viennent. Et l'année prochaine, il va y avoir une révision, vous l'avez dit, des horaires de présence. Nous avons tenu avec Laurent Tricoire la semaine dernière, directeur général des services, la DRH, et le chef de la police, donc on a demandé un projet de redéploiement des heures, parce qu'il n'est pas acceptable de s'en tenir à certaines heures, à 20h, en considérant que la gendarmerie en fera son affaire. Il y a des coordinations sur lesquelles nous travaillons avec la gendarmerie de Palavas. Nous avons reçu il y a 3 jours le commandant Garcia, justement, pour travailler sur cette efficience. Nous avons effectivement... J'en crois l'oracle. En tout cas, le capitaine Essel nous a confirmé que les personnes qui sont les délinquants, qui dégradent les voitures, sont identifiées et sont en passe d'être arrêtées. C'est les éléments qui nous ont été donnés sur Carnon. Ils sauraient qui sont ces personnes, qui sont des personnes de la commune. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Le constat, nous le partageons. C'est la raison pour laquelle le budget 2019, on aura l'occasion d'en parler au niveau des vidéosurveillances. Je rappelle quand même que Carnon a bénéficié, quand l'État fait son boulot, je le dis aussi, l'État nous a aidés comme à Carnon pour financer les caméras de vidéosurveillance, comme s'il s'agissait de Moguio, en les incluant dans un programme cohérent, puisque nous sommes une seule et même commune, et que nécessairement la saisonnalité appelle parfois d'autres dispositions. D'ailleurs, j'aurai le plaisir de vous annoncer à cette occasion le renforcement de l'action et préventive et de remédiation. Voilà. Et au niveau de la prévention, je suis heureux que vous ayez été invité par le pôle jeunesse et solidarité, qui fait un travail remarquable. Alors effectivement, le travail de prévention est un travail qui est difficilement recensable, une exaction et un certain nombre de délits ou d'actes délictueux sont plus facilement recensés qu'un certain nombre de bonnes actions en direction des jeunes, effectivement. Mais la politique en matière du pôle jeunesse ne se dément pas, notamment également au travers de la MJC, avec des partenariats éducatifs d'action citoyenne qui ne sont pas en régression. La médiathèque de l'Ancre également accueille curieusement, je dis curieusement parce qu'il y a davantage de jeunes qui la fréquentent et des jeunes qui ne sont pas des gens issus de familles forcément aisées, et qui viennent la trouver, et de la lecture, et aussi autre chose, ils viennent y trouver aussi des marques d'éducation. J'en ai parlé avec Philippe Monsara et Sophie Crampagne récemment, et Patricia Moulin. Effectivement, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Je peux vous dire qu'on ne lâche pas. Effectivement, il y a en ce moment des sujets de mécontentement et des actions à mener. Et une partie du budget 2019, sécurité, propreté et concitoyenneté. Et sécurité, je vais citer en premier. On se rejoint sur ce point, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous en donne, je vous donne ma part.
Pardon, je finis sur... J'avais signé une tribune avant l'été, hein, sur la sécurité à Carnon et sur les enjeux. Et la réunion dont je parle avec le pôle jeunesse, c'était avant l'été. Je pense qu'en termes, ça ne se verra pas au grand budget quand on votera là, mais il y a peut-être, il y a obligatoirement matière à redéployer des moyens, parce qu'avant, à Carnon, il n'y avait pas de problème, et on mettait la gomme à Mouguio, et quand nos moyens de prévention, nos moyens d'accompagnement de la jeunesse sont déséquilibrés, ils sont beaucoup plus forts à Mouguio que ce qu'ils sont à Carnon. Or, on a des nouvelles pauvretés qui sont à Carnon, on a ce que vous avez repéré, il y a des attentes de jeunesse qui sont à Carnon. C'est pour ça qu'on avait eu des échanges un peu raides sur est-ce qu'on monte rapidement un club de foot. Donc, il y a eu des solutions en indoor, je ne sais plus quand on dit en Occident.
Futsal.
En futsal, pardon. Donc, ça c'est du détail, mais c'est une réelle politique qu'il faut développer. Bon, ça sera peut-être l'occasion qu'on ait une partie politique sur le fonctionnement. Je peux continuer sur le... Je continue sur le... sur les investissements. Moi j'ai bien noté que vous n'avez pas encore stabilisé le plan pluriannuel. Hein, vous avez fait un codicille en disant qu'on en parlerait dans le détail au moment du budget. J'ai eu la même sensibilité que Daniel sur la question de l'équilibre de Prévert, parce que j'ai vu donc qu'il y aurait une vente à la SPL et qu'il y aurait aussi des locations de bureaux et des mises à disposition du service culture. Ça sera peut-être l'occasion du budget, maintenant que c'est bien arrêté, de nous dire
une salle à l'étage.
Vous allez louer une salle qui sera un bureau.
Elle sera louée à la SPL.
D'accord. Bon, donc ça sera.
50 mètres carrés.
Ça sera certainement l'occasion de lors du budget de savoir.
Vous avez raison d'en parler. Il n'y a pas de secret.
Où nous en sommes sur la montée de nos financements. J'ai regardé la courbe de notre endettement et aussi la courbe des investissements. L'an dernier, je lisais Midi Libre qui annonçait 20 millions. Hein. Quand on regarde votre courbe, on a passé 5 hein, encore l'an dernier. Donc on se retrouve avec... on a toujours ce même niveau d'investissement qui est beaucoup plus faible que ce qu'on faisait avant. Et je me demandais comment j'allais faire passer le message. Et j'ai trouvé en me faisant défoncer une jante dans un nid de poule. Quand vous sous-investissez, en fait, il y a une dégradation qui est difficilement récupérable. Et si on ne mobilise pas l'argent public au fur et à mesure, on se retrouve à devoir faire du rattrapage. Du rattrapage de voirie, du rattrapage... Donc, moi, c'est 3,5 là, d'encours de dette.
Ce que vous appelez désinvestissement, c'est notre programme ou...
Oui, c'est le fait que vous soyez en capacité de décaisser 4,5 millions, 5 millions par an en investissement, alors que la tradition de la ville, c'était plutôt une dizaine de millions d'euros par an dans les budgets de Michel Bacala et d'Yvon Pradeil. C'est des documents qui sont à disposition de tout le monde. Donc c'est de ça dont on parle. Et on se retrouvera après à voir, si vous prenez par exemple... Un jour, on va se retrouver à avoir un pépin au port où on aura des bateaux qui pourront plus sortir tellement qu'ils sont invasés. Alors, je prends un exemple affreux parce qu'il y a une grande difficulté, ainsi de suite. Mais bon,
c'est prévu quand même. Alors,
oui, quand on recule... la nécessité de travaux, on se retrouve avec des usagers qui ne peuvent plus profiter de...
Mais je ne pense pas qu'il y ait un seul recul de travaux qui a été constaté là sur Mondio. Parce que si vous parlez du montant des investissements, le montant des investissements, il y a eu un glissement, effectivement, c'est-à-dire ça a été constaté et on ne s'en cache pas, c'est-à-dire qu'il y a eu du retard pris sur certains programmes, d'où l'importance des investissements de 2019, où il y a de la réalisation qui arrive sur des programmes qui ont déjà été débutés. Par contre, en parallèle, si le côté investissement, vous pensez qu'on oublie l'entretien, c'est peut-être plus de l'entretien. Parce que l'entretien, regardez le programme de voirie, etc., il est plus que significatif.
Non.
Et ensuite, quand vous faites le parallèle avec des mandats précédents, je me permets juste de vous rappeler que nos investissements doivent rester quand même proportionnels à nos recettes que nous encaissons, aux baisses des dotations, au maintien, comme je vous l'ai précisé sur le ROB, d'une fiscalité juste et mesurée. On fait quand même partie des communes qui ont les taux de fiscalité locaux les plus bas et qui n'avons pas su profiter de la baisse ou de la suppression de la taxe d'habitation pour aller augmenter, nous, nos taux, pour que ça passe comme ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis désolée, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ne me parlez pas de matelas ou d'argent de côté, parce que c'est pas vrai. Parce que si vous prenez le PPI sur la totalité du mandat, Monsieur Pradey, on va être amené à faire un prêt en 2019. Si on est amené à faire un prêt en 2019, c'est bien parce qu'il n'y a pas assez de recettes. Sinon, on n'est pas plus idiot que les autres. On ne ferait pas de prêt. Donc, oui, mais... Parlons de tout. On ne parle pas que du montant des dépenses ou de l'investissement. On parle bien d'une réalité financière. Nos dépenses doivent être cohérentes par rapport à nos recettes. Et nos recettes de maintenant, si vous voulez comparer les investissements et les dépenses avec les mandats précédents, il faudra aussi comparer les recettes et les dotations d'État.
J'ajouterai également que on est passé d'une bibliothèque, puisque vous êtes remonté au mandat de Michel Bacala, dont j'ai fait partie de l'équipe, la deuxième équipe, en 1995. Si vous remontez à cette époque-là, où la médiathèque n'était qu'une salle au bas du Civom que tenait Madame Berthelot, effectivement, beaucoup d'eau a coulé depuis. Si vous pensez à l'absence de médiathèque qu'il y avait à Carnot jusqu'en 2001, où c'est le mandat avec Yvon Pradey qui avons réalisé, et où on a doublé l'année dernière l'extension de la médiathèque, je pense qu'on est passé dans une autre dimension. Si vous pensez également au Allo Mairie, à l'exigence qui est celle de répondre à l'appel de chaque citoyen, ce qui n'existait jamais quand Théolus se passait à bicyclette dans la grande rue, on disait « Oh Théo !» Il dit « Oui, je passerai, je le ferai !» Ça se passait comme ça, quand il y avait 3500 personnes. Il faut tout considérer. J'apprécie votre exercice de style, un peu déjanté, le coup de la jante, il était pas mal, mais effectivement, soyons sérieux. Effectivement, moi je souhaiterais également qu'on investisse davantage. On fait, vous avez quand même là la traçabilité quand même de plusieurs mandats. Il faut le lire sur une pluriannualité. On a un PPI qui tient la route. Après, que vous soyez vous celui qui dit qu'on pourrait faire mieux, c'est aussi un petit peu votre rôle. Mais ça, c'est tout à fait normal, c'est un petit peu la posture. En revanche, moi je vous réponds que dans le même temps, il y a des services que nous apportons qui n'existaient pas dans les mandatures précédentes, qui sont consommateurs de ressources humaines, consommateurs de temps, et qui visent à une amélioration du cadre de vie. Si la ville de Mogio est réputée pour son cadre de vie, s'il y a deux fleurs aujourd'hui, s'il y a des grenouilles par rapport à tout ce qui est phytosanitaire, c'est pas pour faire plaisir à une pancarte, c'est pour dire qu'il y a quand même des choses qui se sont passées, qu'on a travaillé sur des ambiances. Et aujourd'hui, vous auriez tenu il y a 20 ans, jamais vous n'auriez tenu ce discours au niveau de l'exigence en termes d'urbanisme. On aura l'occasion d'y venir tout à l'heure. On n'a pas fait assez de logements sociaux. Moi, je vais vous le prendre autrement. Je vais vous la faire à l'envers. Je vais vous dire qu'au lieu de mettre peut-être de l'argent sur certaines réalisations, on aurait mieux fait de faire un peu plus de logements sociaux. On aurait économisé 420 000 euros. C'est facile de refaire l'histoire. Je ne vais pas le faire. Je refuse de ce procès qui consiste à dire quand même c'était mieux. C'est un petit peu difficile. Peut-être par certains aspects, il y avait une ambiance différente.
une convivialité qui se déclinait entre Melgoriens, qui avait moins de personnes entrantes dont je fais partie, et qu'effectivement, la donne a changé, comme je disais tout à l'heure à M. Bourguet. Une ville, ça évolue, les missions de service public évoluent, on peut regretter que certaines laissent la place à d'autres. Soit, mais le budget que nous présentons, nous aurons l'occasion de débattre des chiffres, là on est dans des intentions. On ne va pas s'écharper, telle n'est pas mon intention. On échange des points de vue. Voilà. Voilà.
Si je prends un exemple, c'est le jardin du Bosquet. Vous ne pouvez pas dire que vous avez un manque de finances qui vous empêche de le faire, puisque vous avez...
J'ai jamais dit ça.
Vous avez toujours eu dans vos comptes, et à chaque fois je vous dis, alors c'est cette année, c'est promis. C'est un gimmick entre nous. Si on l'avait fait en tout début de mandat, ou même au mandat précédent, ça aurait été un plus pour la station. Et on en profiterait depuis 10 ans. Ce jardin, on aurait pu le refaire depuis 10 ans.
Ah mais moi, je veux bien tout faire dès le début.
Et je dis que hâter certains investissements, ça améliore très fort la vie des Carnonnais et des Maigoriens. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut tomber d'accord là-dessus, monsieur le maire, parce que moi, je veux bien dire en off, quand on a eu un échange sur les caméras, ensemble, et on s'est dit, il y a encore l'État les subventionne pour moitié, et si on veut avoir un programme cohérent en termes de sécurité, il faut trouver les 4 ronds pour profiter de la manne. Je vous donne l'acte que vous avez accéléré et qu'on a trouvé, et on est monté à un niveau de protection à Carnon qui est très satisfaisant parce qu'il y avait une manne et on a bandé nos muscles et on a bouclé une politique. C'est de ça dont je parle. C'est rien que de ça dont je parle. C'est le fait d'avoir des politiques qui soient pas qui soient efficientes sur la table. Donc voilà, après on discutera des chiffres à la fin.
Et suivi, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Monsieur Frappoli.
Oui, monsieur le maire, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur Pradeil. Moi, le retour que j'ai au niveau de Carnon, c'est que les gens veulent une réponse rapide et de suite.
Oui, alors, comme je vous l'ai écrit, on est passé du sentiment d'insécurité à l'insécurité.
Alors, monsieur Frappoli, une petite minute. Nous parlons de débat d'orientation budgétaire.
Oui, c'est un débat d'orientation budgétaire. C'est pour ça que je vous pose la question.
Non, mais je vous ai dit tout à l'heure, bon, dites ce que vous avez à dire, mais la réponse, je vous l'ai déjà donnée. Je vous ai dit que nous allions consacrer davantage de moyens, davantage de suivi, et faire, disons, dans ce continuum de ce qui est une sécurité passive, la rendre plus active avec des moyens plus forts, mieux affectés, sur Carnon notamment.
Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais par rapport au budget sur lequel nous discutons aujourd'hui, je crois qu'il faut mettre l'accent sur cette sécurité, parce que si à Carnon, il se passe des choses quasiment tous les jours, moi je reçois des mails de voitures cassées, de voitures brûlées, de personnes agressées chez elles, et dernièrement encore, je crois que sur le port, ils viennent de voler tout ce qui était représentatif de Noël. Oh, sympa. Mais bon, je crois qu'il faut mettre l'accent là-dessus parce que les Carnonnais ont besoin d'avoir une réponse rapide et précise. Et il n'y a pas qu'à Carnon, parce qu'on a un sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, il se passe des choses au niveau des Garrigues, où là, d'après ce que j'ai fait voir les gens, d'après ce que j'ai vu, peut-être que ça pourrait tourner à vinaigre, et à un moment donné, peut-être que la situation va nous échapper. Alors, vous m'avez répondu au courrier que je vous ai fait, que vous aviez coécrit... un courrier à M. le Préfet avec l'excellent député Monsieur Vignol, mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas s'en tenir qu'à un courrier à M. le Préfet. Je pense que des présences beaucoup plus effectives au niveau des Garrigues, en ce moment surtout avec les fêtes de fin, la cabane a été cambriolée dernièrement, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être trouver une solution... en discutant justement avec les services concernés, notamment la police municipale, puisque vous avez maintenant un nouveau directeur, vous avez aussi des syndicalistes avec lesquels vous pouvez discuter sur des créneaux horaires d'emploi, et peut-être voir aussi quel budget on pourrait amener au niveau des heures de nuit, par exemple, voire de certaines heures supplémentaires. Voilà. Et je vous dis que les gens, aujourd'hui, sont en demande de ça et attendent une réponse rapide et concrète. Voilà, monsieur le maire.
Vous confirmez que les orientations que j'ai dites tout à l'heure vous conviennent. Laurent.
Elles me conviennent, mais il faut qu'elles soient plus rapides.
Oui. Monsieur Frappoli, pour vous répondre, au lendemain des quelques faits qu'il y a eu au Garrigues, nous sommes allés sur place. Et contrairement à ce que vous avez pu dire, nous n'avons jamais vu le discours... Excusez-moi, je vous réponds, laissez-moi parler. on a répondu à la population pas qu'on ne pouvait rien faire, puisque depuis ce jour-là, nous avons mis en place des heures supplémentaires chez la police jusqu'à 2h du matin.
Des points fixes.
Des points fixes. C'est une stratégie qui a été discutée avec les forces de l'État, avec la gendarmerie, conjointement. Quand on n'y est pas, ils y sont. Quand ils y sont, on n'y est pas. Logique. Donc on n'a pas attendu, bien sûr, aujourd'hui le conseil municipal pour le faire. Au lendemain des faits, nous y avons été. Nous avons amené une partie de la réponse, parce que malheureusement, nous n'avons pas à 100% la réponse sécuritaire. Mais bien sûr qu'on a réagi, bien sûr qu'on a pris une chose en main les choses.
Corinne Maya nous a fait remonter régulièrement les attentes des jeunes des Garrigues. Voilà.
Apparemment, je crois que moi j'ai beaucoup de retours comme quoi les gens du Dodien qui vont venir soient rallumés la nuit.
Ça, par contre, c'est encore un autre débat que nous pouvons avoir, mais à Carnon, c'est pareil. Depuis le début des événements, nous avons renforcé jusqu'à 2h du matin
Madame Corco,
la présence de la police.
Voilà. Pour ce qui est de cela, donc, nous avons dit que nous faisions une expérimentation sur une durée limitée, que nous en tirerions les bilans, que nous verrions avec la brigade, la gendarmerie de Palavas qui administre Carnon et celle de Moguio qui administre Moguio. Nous verrons la résolution des faits délictueux, leur origine, et ensuite, si la question de l'insécurité dont se plaignent certaines personnes, qu'elles soient ici et ailleurs, relève de cette disposition, nous l'arrêterons. Nous avons pris cette démarche par rapport à une volonté environnementale où on essaye de pondérer la prégnance de la luminosité dès lors que nous la jugeons superflu ou plutôt inutile. Effectivement, il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Des témoignages de villes qui ont fait l'expérience nous ont amenés à la tenter. Aujourd'hui, personnellement, je ne l'oriente pas. Nous allons voir, effectivement, si cela est dû à est à l'origine des exactions, des faits délictueux qui sont commis. Mais sachez que nous en sommes conscients et que là-dessus, nous adopterons en fonction du résultat de ce qui nous sera dit et des résolutions, la meilleure des attitudes.
Techniquement, ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé pour la bonne raison que ce système-là, le permanent réduit, a existé dans les années 1972. Quand il y avait l'ampadaire qui était allumé, que le voisin était éteint, le voisin se demandait pourquoi il était éteint, que celui n'était pas allumé. Après, en termes de sécurité routière, sur les grands axes, si on fait du permanent réduit, l'automobiliste n'est pas attentif, et puis ça fait des zones d'ombre, zones de lumière, zones d'ombre, et c'est là qu'on risque d'avoir des accidents. Voilà les thèmes. Nous travaillons disons, sur la réduction, et après, ce qu'il faut regarder, c'est... je ne sais pas si vous avez lu le journal aujourd'hui, le journal, les grandes villes s'y penchent. Vous avez les statistiques, même des grandes villes, qui démontrent qu'il y a moins, disons, de sinistres. Il n'y a pratiquement pas de sinistres la nuit. Les sinistres, les cambriolages, les mauvaises intentions, elles se font entre 8h et 22h. C'est le principal. Voilà.
Bien, le sujet, de toute façon, reviendra sur le tapis, si je puis dire, en espérant mettre au tapis les gens qui en sont à l'origine. D'autres remarques sur d'autres propositions sur CROB, ou je demande à Madame Favier de continuer. Ça va, Dominique, on y va.
Alors, donc je passe au port, tout à fait. Donc l'objectif.
Et il faut qu'on vote cette orientation budgétaire telle qu'elle a été décrite, telle que nous l'avons tous les deux exprimée. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Donc, le rapport d'orientation budgétaire, bien sûr, pour le port a exactement la même signification, le même but. Au niveau de ce qui a déjà été fait, le port de Carnon est déjà engagé depuis plusieurs années sur une démarche de remise à niveau de l'infrastructure portuaire et de ses équipements. Il y a eu la réhabilitation simultanée des bassins Est et Ouest, le renouvellement d'engins portuaires, le remplacement des véhicules du parc automobile, le programme de déconstruction-construction de la capitainerie, est en projet le stockage à terre, et bien sûr le dragage, puisqu'il n'est aucunement question de laisser les bateaux s'envaser à Carnon. Au niveau du budget de fonctionnement, Donc le budget s'élève à 2 614 859 €. Le contexte financier bien, est le même, c'est-à-dire il est demandé aussi, et le port y est arrivé, à maintenir les dépenses de fonctionnement sans qu'elles évoluent de plus 1,2%. Au niveau des dépenses, il y a une légère hausse de 13 704 € qui concerne les dépenses générales. C'est essentiellement lié à l'inflation et surtout à l'augmentation des carburants. Et puis une évolution de plus 29 880 € pour l'évolution des charges de personnel. Alors c'est dû à des mutations, mobilité interne, les évolutions de carrière. L'effectif des agents de droit privé est en augmentation constante au fur et à mesure des remplacements des agents territoriaux qui sont en place. Donc à noter qu'au regard des dispositions de la convention collective des ports de plaisance, ces contrats bénéficient du 13e mois. Donc c'est essentiellement pour ça qu'il y a une légère hausse, mais enfin qui reste vraiment maîtrisée du budget du personnel.
C'est plus cher
et plus
ils sont mieux rémunérés. Et d'une manière générale, oui, ils sont mieux rémunérés, un petit peu plus que les fonctionnaires de la fonction territoriale.
Au niveau des recettes de fonctionnement, donc là, il y a une augmentation de 22 636 €, et qui est due essentiellement... à la location annuelle des postes d'amarrage. Au niveau des grands investissements prévus pour 2019 pour le port, bien sûr, il y a le programme de reconstruction de la capitainerie, donc pour une enveloppe totale d'1 762 254 €. Alors attention, pour le port, je suis toujours en hors-taxe. Et la quote-part allouée pour 2019 sera de 162 157 €. Au niveau de... Ben bien sûr, il y a la préparation du chantier du dragage. Et enfin, le renouvellement de matériel d'équipement pour le port à hauteur de 193 200 € hors taxes. Donc l'enjeu principal pour les investissements du port en 2018, c'est la poursuite des remises à niveau débutées les années précédentes, tout en s'inscrivant dans le projet à court, moyen, long terme du schéma directeur et de maintenir la vigilance par rapport aux capacités de remboursement des emprunts. Mais ça, il n'y a pas de souci non plus, puisque la gestion est excellente. Au niveau des recettes d'investissement pour 2019, donc il y a une dotation aux amortissements qui est évaluée à 471 000 €. Et le report de l'excédent de l'année précédente à hauteur de 248 000 €. Au niveau de la dette, donc le capital restant dû pour le port au 31 décembre 2018 est de 2 075 814 000 €. Bien sûr, c'est une dette saine. Au niveau des moyens humains, donc là, le service portuaire est assuré 363 jours par an, de 8h à 4h du matin. Pour ce faire, il y a 16 agents qui assurent les différentes missions, 10 agents de la fonction publique territoriale, 5 agents de droit privé en CDI, un agent de droit privé en CDD de remplacement d'un agent qui est en maladie longue durée, un agent saisonnier de droit privé en CDD est recruté en renfort estival et un agent d'entretien municipal qui est également mis à disposition de la régie. L'intégralité des charges correspondantes est portée par le budget annexe du port. Donc l'objectif suivi pour le budget primitif de 2019 est de continuer à dégager une épargne brute qui couvre le remboursement de l'annuité de la dette, bien sûr, et qui contribue au financement des investissements et qui permet de faire des provisions pour le dragage. Vous aviez aussi en annexe les tarifs et droits d'usage prévus pour 2019. Voilà.
Merci Caroline.
Oui, j'ai une question. Oui, une question sur le dragage, parce que bon, vous dites que vous avez provisionné de l'argent, mais je ne sais pas si vous avez provisionné assez ou pas, puisque vous parlez de 2 millions d'euros. Et puis j'aimerais savoir si on a étudié pourquoi et comment cet embasement. Qu'est-ce qui a suivi des recherches sérieuses là-dessus?
Alors. L'État, jusqu'à présent, nous autorisait à déposer les sédiments dans les casiers de la branche. Nous écrivons pour avoir une réponse formelle de l'État qui nous a dit oralement que ces dispositions n'avaient plus cours et que dorénavant il faudrait clapper en mer. Clapper en mer, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un bateau, je vous la fais simple, avec une connexion, une duriste qui s'en va déposer le sable sur la terre, vous avez une pelle mécanique qui charge une barge. La barge, elle va sur une autre barge plus grande qui est dans l'avant-port. Et de l'avant-port, ensuite, pom 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 pom, elle met 6 heures pour aller à 7. Et pom pom pom, autant pour revenir. Ce qui fait que le coût d'un dragage qui était évalué à 400 ou 500 000 euros, 400 000 euros en 2010 à peu près, c'était le prix, est passé à 2 millions, 2 millions 2 d'euros. Donc la cherté du prix vient de la manipulation et d'une autorisation que nous n'avons plus, à laquelle s'ajoute une cubature de 30 à 35 000 mètres cubes plus importante que celle qu'on avait enlevée, puisque l'entreprise Bolland en 2010 n'avait pas totalement tout enlevé. Dans le même temps, effectivement, l'origine de cet embasement qui s'est accéléré est peut-être pour partie imputable au fait qu'il y a eu des travaux sur le canal de VNF, peut-être, mais également au fait que par le passé, l'État draguait l'étang. Il y avait un travail qui était fait par les services de l'État il y a une vingtaine d'années, qui n'est plus fait aujourd'hui. Et là où je vous rejoins, M. Bourguet, c'est que la préoccupation environnementale de l'État sanitaire de l'étang passe par le dragage du port de Carnon. Le dragage du port de Carnon ne sert pas qu'à faire flotter des bateaux, il sert également à maintenir le bon état écologique de l'étang qui se trophise, comme chacun sait. En revanche, ainsi, si vous voulez, donc j'étais à la région cet après-midi pour demander aux personnes qui sont en charge, Mme Tchakirian, la directrice de la mer, savoir quelles étaient les dispositions que la région pensait prendre au niveau du plan d'élimination des sédiments. Vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui s'y intéresse aussi, je suis ravi. Nous avons... Il y a une approche que l'État essaie de faire, que la région va s'efforcer de faire avec l'État, pour ensuite aider les collectivités telles que la nôtre à, disons, procéder à cette survie de l'activité du port et à cette survie également de l'État. Nous avons provisionné le double aujourd'hui de ce dont nous avions besoin par le passé. Pour autant, cette somme ne représente que la moitié de ce qu'il nous faudra pour draguer. Alors, les perspectives, c'est que un exercice de dragage ne peut se faire sur une seule année. On ne prend pas 800 bateaux, on ne les met pas dans le bosquet, on les récupère, puisqu'il n'est pas encore fait, petit canet, M. Pradel. Donc, on va être obligé de le faire en deux ou trois exercices. Donc, ça va, je l'espère, nous laisser le temps, cette année, au budget 2019, au 1 040 000 ou au 1 050 000 avec un proche qu'on a, on va rajouter 250, on va arriver à peu près à 1 300 000. Donc, nous allons pouvoir provisionner au moins le début de ces dragages et ensuite on s'organisera différemment. Vous connaissez le terme transition, donc il va falloir aussi trouver des mesures de transition. On ne peut pas, en changeant la règle du jeu comme ça du jour au lendemain, qui vous multiplie par 4 le coût d'une opération, laisser la commune en rade, si je puis dire, et ne pas... Et oui, soit il faut trouver de nouveaux contributeurs qui sont toutes les composantes géographiques du bassin versant, soit il faut que l'État nous autorise, comme on a pris langue avec VNF et Mme Avézard, directrice de Lyon, pour pouvoir peut-être déposer sur les berges nord du canal qui s'affaissent et qui pourrait trouver là une correction provisoire avec 35 000 mètres cubes de sédiments, dès lors qu'ils ne seraient pas pollués, ils ne le sont pas. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de métaux lourds là-dedans.
Donc, quelque part, même en menant une politique vertueuse, vertueuse d'un point de vue écologique, vertueuse d'un point de vue financier, le paradigme de l'État qui nous interdit ce qui était possible et qui nous oblige en conséquence à utiliser quelque chose qui est beaucoup plus onéreux, nous laisse quelque part démunis en termes de trésorerie et de solutions écologiques. Parce que ces discussions-là, nous les avons eues avec les partenaires de l'État, les partenaires de la DDTM et de la DREAL, avec Jean-Pierre Ricot, le maire de Pérol, qui lui connaît un embasement similaire au nôtre avec 5 ou 6 000 mètres cubes de sédiments à sortir. Bon, son port est plus petit, mais son problème reste proportionnel le même. On a notre port qui connaît la même difficulté, c'est le port de Frontignan. Voilà. Donc, nous comptons bien entendu sur l'entrée de la solidarité régionale, qui n'est pas la charité. On ne demande pas de l'argent à la main gauche pour la donner à la main droite. On demande justement de trouver des solutions, j'allais dire, qui assument les décisions. Assumer les décisions, on ne peut pas du jour au lendemain, même quand on fait un régime, même quand on fait une rééducation, du jour au lendemain, on ne devient pas complètement nul ou complètement brillant. Il faut accompagner le corps et la tête. Et là, on a besoin de cela pour cette transition. Donc, nous écrivons à l'État pour qu'il nous fasse une réponse définitive. Je peux vous dire que ce soit Didier Codorniot, le vice-président de la région, que ce soit M. Autegui, le secrétaire général de la préfecture, que ce soit Yvan Guitton, qui est directeur du plan littoral. Toutes ces personnes sont nourries de bonnes intentions, y compris d'autres personnes qui sont présentes dans la salle et que je n'ai pas forcément citées. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un qui tienne la queue de la poêle, il n'y a pas un cuisinier, M. Frappoli, qui tienne la queue de la poêle pour justement nous dire, voilà, on va aller dans cette direction, commencer par cela, continuons par ceci, et ainsi de suite. C'est compliqué, voilà. Et ça n'est pas une impréparation budgétaire. Mais moi, à l'image, vous voyez, de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'éclairage de nuit, sur la réduction de l'éclairage lumineux, ça n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de santé, c'est une question d'écologie, c'est une question de santé de l'État. Il y a quand même 2500 hectares, pour ceux qui nous en parlaient à l'époque de l'État, comme il était giboyeux, poissonneux, il est un peu resté, mais si nous n'y prenons pas garde, on a aujourd'hui traité une problématique d'inondation avec le Simbro. On va signer le papier après-demain à Monsieur le Préfet. On a réglé l'état qualitatif des eaux qui se jettent dans l'étang. Pour autant, on n'a jamais fait la relation entre le dragage du port de Carnon et la santé écologique, le bon état écologique de l'État.
Voilà. Et à fait, ils en font quoi de sédiments?
C'est une fosse. Merci. Qui accepte. C'est une tolérance, j'allais dire, une tolérance naturelle, pas une tolérance administrative. Il y a un trou, il y a un gros trou, il y a une fosse. Cette fosse peut accepter des sédiments qui ne sont pas des sédiments qui polluent. Voilà. L'idée, c'est ça. Je ne suis pas allé la voir, mais la géographie, la géomorphologie de la baie de Sète accepte cela. Et nous avons reçu samedi, ne travaillait pas. Enfin, les services sont fermés, sur le service d'accueil. Vendredi, nous avons reçu l'autorisation de la région qui nous autorise à déposer les sédiments à Sète. Pour autant, il n'y a pas un banquier qui est venu nous dire tiens, le million qui vous manque, je vous le porte. Peut-être Madame Fabier qui connaît des mondes. Bien. On avance. D'autres anciens, M. Palais.
Je reste sur. On est d'accord que le port, c'est l'exutoire de l'étang.
Oui.
Et c'est donc l'exutoire des inondations. C'est quand il y a une inondation, c'est aux portes de Carnon que ça se règle, entre autres. Dans ce cadre-là, c'est vraiment une question ouverte. Moi, j'ai beaucoup échangé avec Madame Comme-Darmousse, qui me faisait remarquer que la plupart des hydrologues, c'est ça, disent que si on ne débouche pas les avals, on peut avoir rien de bon en termes de lutte sur les inondations dans les amonts. On s'est beaucoup chicané, mais enfin, c'est une théorie qui se tient, et c'était son cœur de compétence professionnelle.
Dans ce cas-là, est-ce que le fait de désengorger le port de Cardon, ça ne relève pas de GEMAPI ? En termes de gestion des eaux, en termes des inondations. Donc et là, vous tenez le bout de la queue de la poêle.
C'est un sujet que nous avons évoqué avec la région cet après-midi, effectivement. Effectivement.
On en parle à l'agglo aussi.
On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, gestion des milieux. C'est
il y a une théorie qui est détaillée, qui est documentée, sur le fait que vous ne pouvez pas lutter contre les inondations si vous avez des aval qui sont encore moins.
C'est plus sur la pollution effectivement des sédiments que sur les inondations, parce que c'est le degré de salinité qui est régulé plus qu'un risque.
Vous avez les temps qui sursédimentent, ça vous génère de l'inondation, entre autres. Et ça, de toute façon, GEMAPI traite aussi de la qualité des eaux. Donc là, vous avez.
Aujourd'hui, ça tourne, parce que personne ne veut. C'est pas mal tourné, si vous voyez ce que je veux dire. Ni le CIMBO, ni l'agglomération, ni personne ne se précipite.
Oui, mais là, l'État a dit bon, voilà, on vous donne l'autorisation de lever une taxe et régler le dossier par dossier. Donc c'est quand même l'approche de GEMAPI. GEMAPI, c'est la volonté de l'État de donner les moyens de traiter les choses localement.
Et nous avons évoqué le fait, effectivement, que dans un bassin aussi important que celui du CIMBO, si vous mettez un euro de plus, à ce moment-là, ce que je ne sais pas, c'est si on peut alimenter ce qui relève du fonctionnement par un impôt de la sorte. Je ne sais pas. Peut-être, mais enfin, en tout cas, la GEMAPI, oui, vous mettez ça au débat. Moi,
ça c'est une bonheur. C'est une première approche, parce que si vous conjuguez la GEMAPI du Pays de l'Or à celle de la métropole de Montpellier, Pérol, vous avez quelque chose qui commence à devenir conséquent.
D'autant que les propriétaires de bateaux sont plus montpelliérains que carnonnais, ou pérolliers.
Deuxième question que je me posais, c'est on attire mon attention sur le fait que les circulations d'eau par rapport à la sédimentation, c'est quelque chose de très important dans un port. Et on m'a dit qu'il y a peut-être eu une étude sur la circulation du port des eaux dans le port de Cardon, y compris une amélioration des circulations. Si vous voulez draguer sans remédier au fait que les eaux soient trop lentes dans un port, c'est ce qu'on amenait à recommencer 5 ou 10 ans après. Donc là-dessus, a priori, il y a peut-être eu une étude là-dessus. On a peut-être dans la maison une très vieille étude, et si on n'avait pas d'étude, peut-être qu'il y a des ports qui ont des études.
Alors le bureau Safège est chargé justement de faire l'AVP pour connaître la nôtre, et qui correspondra disons, à la technicité pour enlever ces sédiments, pour voir s'ils ont fait, mais je ne pense pas.
Après, l'idée, c'est d'avoir des techniques de un peu de chasse d'eau, vous voyez, ce que je veux dire.
On est d'accord.
Donc, il y a des ports qui ont traité de ça. Donc, c'était ma deuxième question.
Ça fait, je fais l'étude, en fait, par rapport à l'ensablement du port. Parce que le port, notre port, nous, c'est pas un port naturel, c'est une baignoire. C'est une baignoire, elle a été construite, c'est une baignoire. Donc, à partir de là, Il y a des phénomènes qui s'envasent plus vite que d'autres. On va prendre par exemple l'avant-port. L'avant-port, ça s'envase plus vite que les bassins sur l'intérieur du port. Pourquoi ? Parce qu'il y a la mer, etc. Donc, cette problématique d'envasement d'avant-port ne pose pas de problème. Là, ce qu'on discute, les demi-eaux, c'est la baignoire, si vous voulez. Qui s'est remplie de vase, en fait. Et aujourd'hui, on est en train, on fait l'étude pour désenvaser toute cette. Mais je ne sais pas si. On posera la question.
Non, mais
je ne sais pas s'il y a une étude après de courant qui envase plus un endroit plus que l'autre. Je ne sais pas.
Parce que moi, on a vu que quand on fait l'étude des profondeurs, au niveau de la porte, c'est très creusé. Voilà. Alors que plus loin, c'est tout de suite.
Oui, parce qu'il y a
peut-être des techniques dans certaines portes pour traiter ça.
Parce qu'il y a le courant. Bon. Il y a le courant.
Et dernier point, est-ce que dans votre budget, vous avez prévu de réhabiliter le bac, et est-ce qu'on aura un bac qui fonctionne l'été prochain ?
Affirmatif.
Donc on l'aura dans le détail, au prochain budget, on saura. Encore, on va inaugurer.
Une bonne question, une bonne réponse.
Juste une aparté, moi je voudrais avoir quelques nouvelles sur ce sas. Puisqu'on parlait de la salinité, la montée de la salinité dans le temps, est-ce que vous avez trouvé une solution avec le département pour régler ce problème et réparer ce sas du port de Cannes?
Le département et l'agglomération des Pays de l'Or se disputent la non-paternité de cet ouvrage que le département souhaiterait confier aux Pays de l'Or. Donc ça n'est pas encore retranché. Le département, si vous voulez, pendant des années, l'a entretenu. Et puis, il y a une discussion sur le transfert de propriété de cet ouvrage qui nécessite, je me tourne vers Bernard Ganivet, il nécessite une réflexion qui pourrait tourner dans le demi-million d'euros, quelque chose comme ça, non ?
Il se trouve que le transfert n'a jamais eu lieu. Dans ces deux lourdes propriétés au département. Après, j'ai pu comprendre après les dernières fédérations, le département dit que c'est la commune de Bourgure, on n'a jamais eu, en 2013, ça s'est passé en 2013, en disant, on n'a jamais eu le transfert à la commune. Ça nous serait passé, bon, on fait l'état des lieux, quand on fait un transfert à une principale comme ça, l'état des lieux qui est fait, et à ce moment-là, on le donne à la commune ou à votre personnalité. Donc, mais là, il n'y a pas eu de transfert qui a été fait. Donc, alors, c'est pour ça, toujours, vous voyez, on en est toujours là. Pas toi, si c'est moi, c'est l'un ou l'autre. Donc, ce n'est pas la commune, c'est certain.
En fait, la question qui est pendante, c'est que le CIMO et le département, de tête, je peux me tromper, en tout cas, il y a une étude qui est en cours, qui doit déterminer le rôle de ces portes, si elles sont de nature à soulager l'autrophisation de l'étang ou pas. Et en fonction, une décision sera prise. C'est une étude, c'est sûr, le CIMO la paye ou en paye une partie. Je m'en enquêterai après-demain quand je verrai les responsables du CIMO, Florent Bert, pour savoir. Et c'est une patate chaude un petit peu. On en a parlé avec le président du département il y a plus d'un an. Hein. Voilà, pardon. Oui. Si ces portes ont été installées, elles devaient avoir, à mon sens, un usage, notamment en termes de régulation de la salinité. Ensuite, je peux imaginer aussi qu'elles participent à autre chose. Aussi à un arrêt des sédiments.
Un peu, oui, les sédiments, d'accord, mais ce qu'il faudra vite fait, là je vais en parler deux secondes, en 85, je crois que les années 85, c'est comme ça qu'avant que la porte ait été faite, il y a eu un dragage à l'étang de l'Or, un chenal, c'est pas un dragage, c'est un chenal qui avait été fait, qui avait coûté une certaine somme d'argent d'ailleurs, et que ça a servi à coïncider rien du tout, parce que il y a tellement de vase à l'étang de sur 3000 hectares. Alors on avait fait un chenal, je ne sais pas de combien, ça a comblé un marais de 15 hectares qui était privé dans le lieu dit la fossette, et c'est revenu au bout d'un an, c'était comme si rien n'était. Donc je pense qu'il y a un souci aussi autre que cela de l'étang de l'Or, parce que c'est quasiment impossible de draguer 3000 hectares sur 50 cm. Donc on avait, oui, bien sûr, et les portes, par contre, les portes en 1940, elles étaient, nous on parle d'amont, elles étaient bien en avant des portes qu'il y a maintenant. C'était, les anciens l'avaient fait, c'est pour éviter l'ensablement du port précisément.
C'était le service maritime.
Voilà.
De navigation. SMN, comment il s'appelle ? SMNLR. Service maritime nautique, Languedoc-Roussillon. Voilà.
On attend.
Ben, je pense, oui.
Tout le monde se bat pour essayer de le faire remettre, c'est sûr, pour essayer que les portes reviennent. Comme le disait, pas fait la dame du chemin, ça des portes, ça c'est long qu'on débat, parce que tout le monde veut le service comme le disait pour le moment. Après, vous comprenez très bien que c'est plus facile de remettre là où il était que de faire de nouveaux projets avec des distances plus larges, tout ça va demander une dizaine d'années et tout, hein, pour arriver. Là, ça peut se faire assez rapidement.
Bien. Comme on a encore de la route à faire, je vous propose d'approuver ce ROB si vous êtes d'accord. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Caroline ?
Oui, une décision modificative. Donc je vous propose juste de faire un virement de 25 000 euros pour le point dépense de fonctionnement pour une subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé. Alors vous aurez le détail des subventions plus loin, puisqu'en fait ce sont des points qui sont aussi mis en délibération.
25 000 euros au mois de décembre.
Mais vous aurez. Oui. Si tu veux.
Alors, c'est où
Oui, on a les sinistrés, aujourd'hui 5000, l'école de musique auquel on donne un coup de main. Oui, il y avait une fausse note, donc. Et puis. Si, si, si. Mais il y a une partie, c'est avance remboursable sur 3 ans, Madame Fabien vous le dira. Et le troisième, c'était. Le Yacht Club, oui. Oui, c'est dans une délibération qui suit tout à l'heure.
10 000 euros sur le Yacht Club, je trouve ça fait cher.
Sur un projet de 1
million. 1 700 000, mettre encore 10 000 euros de subvention, je trouve
ça fait cher. Non, mais alors là. Non, mais alors. Non, là, c'est pas la base de l'antique que c'est au Yacht Club.
Je jouais sur les mots.
Non.
C'est ce qui a été construit. Et en fait, par rapport à ce qui a été construit, par rapport à ce qu'il y avait avant, je trouve qu'encore mettre 10 000 euros aujourd'hui, ça fait cher. Alors, surtout, il y a peut-être d'autres associations, d'autres organismes qui ont besoin de.
Ah non,
on vous détaillera.
Ça n'a rien à voir avec les associations.
On vous le détaillera. D'accord. À taux de transparence.
Donc là, c'est juste là, c'est juste l'opération comptable.
Allez, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point 5. Ah, c'est moi. Autorisation du maire à signer l'accord cadre au mobilier urbain de la ville de Mouillot-Carnon. Planimètre avec exploitation commerciale et journaux électroniques municipaux sans exploitation commerciale. Bon. En fait, ce sont les planimètres. C'est un nom bien compliqué pour désigner ce que les enfants aiment, c'est les sucettes qu'il y a, par exemple, aux abribus. Et les journaux électroniques, qui sont ceux qui sont de nature à informer le public, comme celui que nous avons à Carnon devant la cité administrative, et celui que nous avons ici, devant, sur le boulevard, en face de la place Mender France. Donc c'est un accord cadre, sans minimum ni maximum, pour une durée de 6 ans, donc c'est 5 fois un an. En fait, les dispositions plaident pour une utilisation d'une face ou de deux faces en fonction, c'est un petit peu compliqué. L'ensemble du budget est d'environ 120 000 euros. Madame Rabinovici, vous vous souvenez, vous étiez présente à la commission d'appel d'offres, donc je ne vais pas rentrer dans le détail du détail. Voilà, c'est un marché à bon de commande, c'est-à-dire qu'à concurrence, 120 000 euros, et en fonction des endroits où on les mettra, si c'est double face, ça coûte un certain prix. Si c'est face unique, un autre prix. Voilà. Et on sait qu'on ne dépassera pas cette somme. Il n'y avait qu'une société qui avait été attributaire, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Les annonceurs, normalement, avaient un marché global avec les abribus, qui nous ont, entre guillemets, un peu échappé, puisqu'ils sont exploités par l'agglomération du Pays de l'Aube, au titre de la régie des transports, puisque c'est lié au transport. Et que nous sommes en train de discuter avec l'agglomération pour trouver un accord à l'amiable, j'allais dire, je pense qu'on devrait le trouver, pour convenir des espaces qui seront dédiés à la publicité de l'agglomération, quand je dis la publicité, aux informations qu'elles souhaitent diffuser, et à celles de la commune, qui par le passé abritait tous les abribus, étaient dédiés, étaient exploités par la commune. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, on vote. Contre ? Abstention ? Merci. Le rapport suivant est pour la souscription des contrats d'assurance à la commune. Alors, effectivement, je vais vous faire grâce du détail. Vous avez un tableau, en page 18, où vous avez la répartition de l'ensemble des lots. Vous avez le lot 1 qui est le dommage au bien, le lot 2, touristes exposition, le lot 3, responsabilité civile et risques annexes, le lot 4, flotte véhicule et risques annexes, le lot 5, parc navigant, le lot 6, protection juridique de la personne morale, le lot 7, protection fonctionnelle des agents des élus, le lot 8, risques statutaires. L'ensemble s'élève à 214 318 euros. Et le travail qui a été fait est un travail qui a permis à la fois de réviser l'ensemble des contrats à la baisse, c'est-à-dire que nous avons environ 15% de baisse
on a réalisé 31 363 euros d'économie en rediscutant les termes de sinistralité en fonction de chaque lot. Et il ressort de cette analyse que nous avons, pour une somme moindre, une extension plus importante des garanties. C'est un cabinet, une dame qui nous a, donc on a, qui, à qui on a confié cette étude, et qui également a sorti non seulement l'obtention de ce nouveau marché à de meilleures conditions financières, mais aussi à des recommandations. C'est-à-dire que quand on a un terme de sinistralité, des faits qui font que, en termes de responsabilité civile ou de dommages sur les véhicules, on a davantage de sinistres. Cela veut dire que dans les préconisations, dans les formations auxquelles nous travaillons avec les agents, eh bien, pour vous faire un exemple, pour faire simple, quand vous avez deux ou trois personnes dans un camion, quand il y a une marche arrière, il est préconisé que, un, le passager descende et aide le conducteur à faire la manœuvre. En effet, vous savez comme moi qu'un camion avec une ridelle peut cacher une balisette ou un obstacle urbain qui fait qu'une fois et l'autre, si vous touchez, l'assureur, lui, s'en souvient. Vous l'avez peut-être oublié, mais lui, à la fin de l'année, vous présente la note. Et cette sinistralité contribue régulièrement au maintien des sommes importantes de contribution en termes d'assurance, ou, voire à l'augmentation, alors qu'avec une meilleure prévention, j'en cite une autre, par exemple, quand vous avez les opérations de débroussaillage. Il est arrivé des faits que je n'aurais jamais imaginé, à savoir qu'une piscine liner voisin a pu souffrir d'être endommagée par une projection d'un gravillon ou d'une écorce ou de quelque chose, et en conséquence, le privé se retourne contre la commune. Donc, oui. C'est vraiment très aléatoire, mais ça arrive. Donc là-dessus, on essaye d'avoir, avec la prévention, des mesures qui contribuent justement à mieux satisfaire aux conditions de travail de nos agents. Donc globalement, je remercie et félicite les services qui ont bien travaillé. Ça a été bien négocié. J'espère que nous poursuivrons ces négociations et ces économies qui veulent dire par là que moi je suis content quand j'ai payé ma contribution à l'assurance que je ne m'en suis pas servi. Et je souhaite que ce soit le cas pour l'ensemble. Enfin, on est 350 agents, c'est pas possible. Enfin, si vous voulez, pour que le taux de sinistralité diminue. Voilà. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, si vous voulez bien, on va passer au vote pour m'autoriser à signer le marché avec les. Enfin, en sachant que les dépenses sont inscrites, bien entendu, au budget communal. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, une affaire qui est compliquée. Protocole d'accord transactionnel avec M. Godefroy. Vous savez, comme moi, qu'une loi qui a été votée en avril 2017, dorénavant, oblige les collectivités à mettre en concurrence l'occupation du domaine public. C'est-à-dire que les ventes ambulantes de food truck, comme on les appelle aujourd'hui, sont soumises à autorisation. Le marché pour 2019 a été lancé et donc il y a eu appel à concurrence sur 4 lots, 4 emplacements différents sur la commune, et il y a eu 6 soumissionnaires. En conséquence, que croyez-vous qu'il arriva? 2 soumissionnaires perdirent leur attribution. En sachant que l'un d'entre eux, M. Godefroy, exerçait sur la commune depuis une trentaine d'années. Peut-être 35 ans, 28 ans, 32 ans, je ne sais pas. Donc cette personne qui avait été exceptionnellement autorisée, comme les autres 3 amendiataires, à prolonger leur activité entre la fin de la saison 2017 et le début de la saison 2018, le jour où un autre attributaire lui a été préféré par la commission d'appel d'offres, cette personne a refusé de partir. Donc nous avons essayé aimablement de la dissuader, de rester. J'ai eu des pétitions,
j'ai eu des interventions de commerçants, de gens qui le connaissaient, qui le plaignaient, d'un monsieur qui a plus de 70 ans, qui, enfin bref, qui roule pas sur l'or. Mais néanmoins, le code des marchés publics ne me permet pas de donner un droit de préférence à une personne qui a perdu le marché. En conséquence, nous avons resté en justice, et au final, ce monsieur a continué son activité, n'a pas été sommé par un référé, c'est ça ?
Oui.
Un référé d'arrêter son activité. Il n'y a pas eu de suspension immédiate. L'attributaire du lot, qui a d'autres activités, n'a pas demandé à la commune, bien qu'il ait été reçu par nos services, de faire cesser l'activité, sinon il nous défère au tribunal. Il a dit, écoutez, puisque c'est comme ça, il a d'autres activités, ce monsieur. Il a accepté de ne pas intenter un recours contre la commune, ni contre M. Bonnefoy. C'est ça. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, compte tenu que l'attribution du lot est une affaire qui tourne dans les 3000 euros, à peu près, et que chaque procédure nous coûte 5000 euros, nous sommes parvenus à un protocole transactionnel de renoncement réciproque à rester en justice l'un contre l'autre. C'est-à-dire que l'année prochaine, M. Godefroy n'exercera plus, s'il est engagé. L'autre personne qui est attributaire du lot pourra prendre la place. Et ensuite, la commune, elle, n'aura pas à payer des frais. On encaisse ensemble, on encaisse une recette de 3 000 pour engager une dépense de 5 000 à chaque stade de l'appel. Hein? Voilà. Donc, à un moment donné, comme on dit vulgairement, la sauce coûte plus cher que le rôti. Je suis très mal à l'aise pour présenter ce point, parce que j'ai rencontré cette personne. Alors c'est vrai que, quand vous la rencontrez, c'est Victor Hugo, c'est Les Misérables. Cette personne mérite le respect. C'est une personne, c'est pas quelqu'un qui a 35 ans en pleine forme, et à qui on a envie de dire, oh, cette personne, vraiment, elle a été, enfin, humainement, c'était difficile. Mais là, on a essayé d'intenter une démarche juridique, administrative, formelle. Et au final, voilà ce que je vous propose. Maintenant, si vous voulez faire des commentaires, les uns et les autres, vous êtes intervenus. Enfin, je ne vais pas dire que c'est une... Je ne vais pas qualifier cette personne avec un adjectif qui ne serait pas convenable. C'est une personne respectable, qui a plus de 70 ans, et à l'heure où d'autres peuvent prétendre à se reposer, lui a besoin de travailler. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Donc, je vous demande de m'autoriser à... passer ce protocole d'accord transactionnel avec M. Godefroy. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, mais je vous remercie pour lui. Et pour nous aussi, en même temps. Caroline et Mme Favier, point suivant.
Il s'agit d'une provision pour risque, donc le pour le port de Carmont, pardon. Le trésorier principal nous demande de faire une reprise de provision à hauteur de 14 520 euros hors taxe pour recourir à une admission en non-valeur. Et le point B, puisqu'on peut voter les deux en même temps, donc par voie de conséquence, il faut reconstituer ensuite la provision. Donc, de façon à ce qu'il y ait un montant total de 30 320 euros hors taxe, il convient d'approvisionner à hauteur de 18 820 euros pour ajuster la provision existante. Voilà, je ne vous fais pas tout le détail du... C'est bon, vous connaissez le fonctionnement.
On passe au vote. Contre ? Abstention ? Je vous remercie. Point 9.
Point 9, c'est l'approbation des tarifs communaux. Donc, vous aviez en annexe tout le détail des tarifs communaux. Il n'y a pas d'augmentation. Particulière. Donc, à moins que vous ayez des questions, des remarques particulières. J'irai voir le prochain match avec vous, comme ça on fera moitié-moitié. D'accord ?
Allez, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Je vous remercie. Laurence, tu prends le podium, s'il te plaît. Madame Julie.
Merci. Donc, vous savez qu'on a déjà amorcé un travail important sur l'accessibilité des personnes handicapées, notamment au niveau du tourisme, ce qui nous a valu d'avoir le trophée d'or du tourisme adapté en 2018. Donc, le maire a fait le choix d'aller encore plus loin et d'aller vers le label Destination pour tous. Alors, cette fois-ci, ça n'est plus un label qui concerne que l'office de tourisme, c'est un label de territoire hein, qui est décerné par l'État. Et qui concerne un territoire qui est donc Mauguio-Carnon. L'idée étant de rendre accessible notre territoire sur les axes notamment culturels et sportifs aux personnes qui souhaitent venir nous rencontrer. Ce label, pour l'avoir, nous devons présenter un dossier qui sera présenté fin avril. Et pour accéder à ce dossier, nous devons faire une étude sur l'accessibilité de notre territoire. Cette étude s'élève à un montant de 20 000 euros hors taxe, 24 000 TTC, et nous souhaitons nous faire aider par le conseil départemental pour financer ce travail en demandant la subvention la plus élevée possible. Donc, il est proposé au conseil municipal de demander les subventions les plus élevées possibles auprès du conseil départemental de l'Hérault et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Merci Laurence. Donc, je crois que l'exposé est clair. Une remarque ? Monsieur Bradet.
On pourrait accompagner Madame l'adjointe qui a commencé à améliorer l'accessibilité à Carnon. On pourrait sur ce budget-là faire un petit effort. Ça serait un mauvais affichage de mettre plus d'études que de réalisation. On en discute souvent. Il y a l'accessibilité pour les personnes malvoyantes. Ou en fauteuil roulant, on peut améliorer quand même la Carnon.
Alors, effectivement, l'étude urbaine qui a été conduite par Traverse, que je citais tout à l'heure, et qui va être reprise dans le cadre du schéma directeur du projet de ville de Mauguio-Carnon, va permettre, dans cette optique, justement, d'améliorer ce qui a déjà été entrepris par le label Destination pour tous et l'action de l'Office de tourisme.
Et si je peux me permettre, c'est moi qui le présente parce que je suis adjointe au tourisme et au handicap, mais il y a un vrai travail de partenariat entre l'Office de tourisme et la mairie, puisqu'on a déjà entrepris plusieurs réunions à laquelle Jacques Cravert j'ai perdu son prénom. Patricia Brouard qui a également participé. Et il y a vraiment un travail qui se fait, un travail de fond. Là, c'est vraiment l'étude dont je parle, mais j'aurais pu parler du travail qui se fait, et merci de le souligner.
Merci Laurence. On passe au vote, si vous voulez bien. Contre ? Abstention ? Merci pour Destination pour tous, et vraiment pour tous, Laurence. Je te ferai présenter davantage de points. Bon avocat. Caroline.
Je vous demande de bien vouloir accepter une remise gracieuse sur la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'entreprise DMA de la Longue Automobile qui est en difficulté financière et ça représente un montant de 623,74 €.
Effectivement, ce sont... Alors...
Vous voulez pas qu'on les nationalise? Ça nous coûte en argent.
Monsieur Bradet, je sais que je vais vous embaucher, moi, pour l'optimisation fiscale de la commune. On a besoin d'un coup de main.
Pour avoir une voiture pas chère.
Dangereux.
C'est bien sûr de la suite à des idées. Allez. Mais que ça ne fasse pas rire.
Non.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Alors, le point 12, il s'agit de l'évaluation des transferts de charges 2018 entre l'agglo et la commune. Depuis septembre 2018, l'ensemble des communes du territoire a décidé de passer à la semaine des 4 jours. Et c'est ce que je vous expliquais dans le ROB. L'étape organisée par l'agglo pour le compte de certaines communes ont été supprimées, ce qui est notre cas.
Et donc, dans la même logique qu'il y a un transfert de charges initiaux, il est proposé à la commission d'arrêter le montant des charges à rendre aux communes sur la base des sommes versées initialement par celles-ci au titre de financement de cette compétence. Donc, pour l'année 2018, il est également proposé de proratiser ces sommes à hauteur de 4 dixièmes du coût total net annuel, comme il avait été retenu en 2014 et 2016. Donc vous aviez un tableau de synthèse, et ce transfert permet une économie de 111 000 euros. Et en parallèle, la suppression du fonds d'amorçage, de 75 000 euros, donc la différence est de 36 000 euros.
Des questions ? Pour ce vote ? Contre ? Abstention ? Merci.
Vous vous souvenez de l'époque où on croyait que ça coûtait 25 000 euros ? On était très bien. On parle de 30 000 euros.
36, oui.
On se fait peur en 2020.
C'est ça. Moi, je suis surtout content que l'école retrouve sa vocation originelle, qui est celle d'enseigner et pas celle de garder les enfants. Voilà, je vous le livre cash. Voilà. En tant qu'ancien enseignant, ancien pédagogue, je trouve qu'il y a des locaux dédiés à l'éducation, des locaux dédiés à la garderie, des locaux dédiés à l'animation. Il y a des lieux pour ça, sur la commune, nombreux. On les entretient, on en crée même d'autres. Mais je trouve que l'enseignant est...
C'est bien, parce que c'est une dernière fois pour notre
ambition
à Carnot.
Voilà. Très bien.
Ça en fait partie.
Le point 13.
Le point 13, alors c'est un avenant à la convention d'objectifs 2018 avec la Fédération régionale des MJC qui a fait les comptes et qui nous demande un montant supplémentaire pour la rémunération des directrices de MJC. Elles ont refait le calcul et c'est 107 270 euros au lieu de 103 839 euros qui étaient indiqués au début.
Elles avaient fait l'erreur parce qu'il ne faudrait pas qu'elles fassent l'exercice une fois de plus et qu'à mesure qu'elles refassent le calcul, qu'elles nous mettent une couche de plus. Il y avait une erreur.
Voilà. D'où l'avenant.
Allez, on passe. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de le monter, mais c'est une erreur de la Fédération des MJC.
Ah oui, on est obligé de le payer. Vous n'êtes pas obligé de le voter.
Vous n'êtes pas obligé de le voter, mais vous êtes obligé de le payer. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Merci.
Point 14.
Participation 2018 au syndicat mixte pour le développement de la pêche et de la protection des zones marines dans le golfe d'Aigues-Mortes pour un montant de 1 000 euros. Donc, il passe au vote aussi.
Allez, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, le point 15, Bernard, M. Cassard, la ZAG, la Fonde de Mouguion, déclaration de projet préalable, la déclaration d'utilité publique. Nous t'écoutons, on fera quelques commentaires ensuite.
Merci. Au terme de l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 septembre au vendredi 19 octobre 2018, et qui s'est terminé par l'avis favorable du commissaire enquêteur sous réserve du dépôt de l'étude préalable agricole par la SPL auprès de la préfecture. Le préfet a demandé à la commune, par courrier en date du 19 novembre, de se prononcer sur l'intérêt général du projet. Cette demande doit être satisfaite sous la forme d'une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération. Cette déclaration de projet se présente sous 5 chapitres. Je vais être un peu long. Le premier chapitre, c'est l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête publique. La zone d'aménagement concertée de la Fonde Mouguion repose sur une assiette foncière d'environ 19 hectares. Le programme développé comprendra environ 70 500 m2, comprenant à titre indicatif 740 logements à l'horizon 2030, répartis de la façon suivante, 18% de logements individuels, 9% de logements individuels groupés et 73% de logements collectifs. L'opération est à vocation principale de logement et comprendra des logements privés, des logements d'accession abordable à hauteur de 15%, ainsi que des logements locatifs sociaux à hauteur de 30%. Concernant les équipements, la commune est d'ores et déjà équipée, proposant une offre complète dans différents domaines tels que le scolaire, loisirs, petite enfance. L'opération intégrera néanmoins une emprise destinée à accueillir un groupe scolaire supplémentaire et, dans une moindre mesure, des activités de bureaux et des commerces de proximité ayant vocation à constituer une offre complémentaire à celle existante au centre-ville et non pas une concurrence. La deuxième partie de cette déclaration de projet, c'est les motifs et considérations qui justifient le caractère d'intérêt général de l'opération. Le projet présente le caractère d'un projet d'intérêt général pour les motifs suivants. Le développement urbain de la commune de Mogliocarnon ne peut se faire que vers l'est. En effet, la commune est contrainte par la présence de zones inondables et de barrières naturelles et infrastructurelles, tant à l'ouest, au sud, au nord, etc. Donc ça ne peut être que vers l'est. Le secteur de Lafond est donc situé à l'est de la commune, en continuité directe et immédiate de l'urbanisation et des infrastructures communales nécessaires à la population. Il est identifié comme une zone ayant vocation à recevoir des opérations d'urbanisme dans les divers documents de planification et d'urbanisme communaux et intercommunaux depuis de nombreuses années, que ce soit le PLU, le PLH ou le SCOT, pour répondre à la nécessité de développer et d'adapter l'offre de logement. Ces éléments expliquent donc le choix de ce site. Comme l'ensemble des communes de l'intercommunalité, la commune connaît une forte pression démographique liée au développement métropolitain autour de Montpellier. Face à ce constat, la commune a fait le choix de conduire un projet d'aménagement permettant d'accueillir ces 740 nouveaux logements afin de répondre à la fois aux besoins liés au desserrement des ménages qui, je le rappelle, représente aujourd'hui près d'un logement produit sur deux et aux besoins liés à la croissance démographique. Les autres solutions alternatives se révèlent en effet insuffisantes pour apporter une réponse à la population. Le taux de vacance est très faible, minimisant la solution de mobilisation du parc vacant et des possibilités de densification du tissu existant. Pour autant, la commune a diligenté un schéma directeur qui a permis d'identifier le potentiel de production de logements dans l'enveloppe urbaine existante, estimée à environ 300 logements à l'horizon 2033. Le recours à une opération d'urbanisme dans un souci d'extension limitée et maîtrisée apparaît donc comme une nécessité, étant précisé qu'il s'agit de la seule opération de ce type à l'horizon 2030. Un effort de rationalisation de la consommation de l'espace a été effectué avec une densité de logements bien plus importante que par le passé. En contrepartie, l'accent a été mis sur l'importance des espaces publics afin d'offrir aux habitants la possibilité de se rencontrer et de créer du lien social. L'opération permettra à la commune de développer de nouvelles formes urbaines plus compactes qui font la part belle cependant aux espaces publics, de prévoir une mixité fonctionnelle mêlant habitat, équipement public et activité, et d'assurer une mixité sociale avec 30% de logements locatifs aidés et 15% de logements en accession abordable. Il permettra également de conserver les jeunes ménages qui aujourd'hui quittent la commune par manque d'offres abordables et de préserver ainsi le devenir et la qualité des équipements publics qui vont être réalisés. La réalisation de la ZAC de Lafond de Moggio avec près de 230 logements à vocation sociale, 111 logements en accession abordable, permettra donc de répondre à la nécessité d'accueillir des Melgoriens jusqu'à l'horizon 2030, tout en préservant une qualité de vie et d'environnement. Elle répond à des objectivités de mixité sociale et fonctionnelle et a été conçue dans un souci de limitation du phénomène d'étalement urbain en privilégiant la densification et la recherche d'équilibre dans la consommation des espaces naturels. Pour toutes ces raisons, la ZAC de Lafond de Moggio répond donc à une finalité d'intérêt général. La troisième partie, c'est l'étude d'impact du projet et l'avis de l'autorité environnementale. Il résulte de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique que l'ensemble des incidences du projet sur le milieu physique, naturel, humain, sur la santé humaine, sur le patrimoine et le paysage, a été pleinement appréhendé, ainsi que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Cette étude d'impact a donné lieu à un avis favorable comportant de simples recommandations sur le volet paysager de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement le 22 juin 2018. Le dossier a donc fait l'objet d'un avis favorable du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 juillet 2018. La quatrième partie de cette déclaration, c'est la consultation du public. Le projet a été soumis à la consultation du public à plusieurs étapes, lors de la concertation préalable de la création de la ZAC, lors de la concertation préalable à la réduction du périmètre de la ZAC entre mars et septembre 2017, lors de la mise à disposition par voie électronique de l'évaluation environnementale du dossier de création modificative de la ZAC du 29 juillet au 11 septembre 2017, puis du 20 octobre au 18 novembre 2017. Lors de l'enquête publique, et enfin lors de l'enquête publique unique préalable à la DEP, l'enquête publique unique tenue du 17 septembre au 19 octobre 2018 a donné lieu à 60 contributions électroniques, 38 sur le registre papier. Il y a eu au total 207 observations individuelles, 28 observations de groupe et 28 observations ou demandes du commissaire enquêteur lui-même. Les principales observations se sont concentrées autour de trois thèmes suivants. La circulation et le stationnement. Le commissaire enquêteur a conclu que le parking au sud de la ZAC dans la zone d'Aléa permettra d'absorber les visiteurs de la ZAC et bénéficiera d'une signalétique spécifique informant le public de son caractère inondable en cas de forte pluie. À ce titre, il répond à une finalité d'intérêt général. Il en va de même des 411 places de parking public, dont 206 visiteurs comptant 19 voitures pour le covoiturage, 7 emplacements PMR déjà localisés sur les tranches 1 et 2 et 4 emplacements permettant la recharge des véhicules électriques. Le commissaire enquêteur a conclu que l'ensemble des axes de circulation étaient parfaitement adaptés à la desserte des différents lotissements et que l'axe principal doublé par un cheminement doux permettrait une très bonne gestion des différentes possibilités de déplacement. En ce qui concerne le risque inondation eau de ruissellement, le commissaire enquêteur a relevé que le syndicat mixte du bassin de l'Or avait donné un avis technique favorable et souligné le bon dimensionnement du dispositif de rétention, que le périmètre de la ZAC avait été revu à la baisse pour le risque d'inondation et que les enjeux bâtis étaient désormais implantés hors zone inondable, n'induisant pas d'aggravation de la vulnérabilité du secteur. Il a également souligné que le réseau hydraulique avait fait l'objet d'une étude particulièrement sérieuse qui avait cumulé la pluie exceptionnelle de 2014 et la crue centennale de la Cadoule, ayant dicté le dimensionnement du fossé nord de la zone et du fossé actuel traversant la zone en provenance de l'ouest. En ce qui concerne les terres agricoles, le commissaire enquêteur a relevé que bien que l'étude d'impact ait été réalisée et comporte l'ensemble des pièces obligatoires au titre de la réglementation en vigueur, le projet concernait néanmoins une ZAC dans une zone AU délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affecté en partie à une activité agricole dans les 3 années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation de projet. Ce point a donc fait l'objet de la réserve, étant précisé que cette étude préalable agricole, tout comme l'avis du préfet sur les mesures de compensation agricole proposées, ne constituait pas une pièce obligatoire du dossier de l'enquête publique. Par ailleurs, le projet de ZAC de la Fonde Monguio reste identifié au scope de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Or, celui-ci a fait l'objet d'un avis favorable de la CDPENAF, qui est la Commission départementale de protection de l'environnement, de la nature, agricole et forestière, en date du 4 octobre 2018, relevant notamment l'effort de réduction de consommation de l'espace qui est dédié à l'agriculture et qui va être consommé pour l'habitat. La réduction par rapport au scope précédent est de 75%, alors que notre objectif était de 50%. De façon générale, les questions soulevées dans le cadre de cette enquête publique ont toutes fait l'objet de réponses apportées par la commune, la SPL ou le PF Occitanie, au bénéfice duquel a été prononcé un arrêté de cessibilité. En effet, c'est le PF qui porte l'acquisition du foncier pour permettre l'opération. À l'issue de l'enquête et après avoir pris connaissance des réponses apportées, monsieur le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la mise en compatibilité du PLU de la commune de Moguio, à la cessibilité des emprises foncières mentionnées dans le dossier d'enquête parcellaire est nécessaire à la réalisation de l'opération ainsi qu'à l'autorisation environnementale unique assortie néanmoins de la réserve suivante. Avis favorable sous réserve que la société publique locale dépose auprès du service de la préfecture compétent l'étude préalable agricole conforme à l'article D112.1.9 du Code rural et de la pêche maritime. La STL Loire Aménagement a déposé la dite étude préalable agricole le 7 décembre 2018. Tout au long de l'avancement du projet, le public a donc été largement consulté afin de pouvoir l'informer sur le contenu du projet, lui permettre d'exprimer ses préoccupations et d'apporter des réponses adaptées à celles-ci en fonction des enjeux identifiés et des équilibres recherchés. La cinquième partie de cette déclaration de projet va se résumer en une seule ligne, puisqu'elle doit préciser les modifications qui seront apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. Eh bien, il n'y aura pas de modifications envisagées, puisque le résultat de l'enquête publique est favorable. Sur la base de ces éléments, il est donc proposé au Conseil municipal de maintenir au regard des résultats de l'enquête publique les caractéristiques du projet dont la déclaration d'utilité publique a été demandée, de déclarer, au vu des motifs et considérations mentionnés dans le présent rapport, l'intérêt général de la ZAC de la Font de Moggio en prenant en considération l'objet de cette opération, son étude d'impact, l'avis de l'autorité environnementale et le résultat de la consultation du public. D'informer le public que la présente délibération comportant le texte de la déclaration de projet pourra être consultée dès qu'elle sera devenue exécutoire en mairie, au jour et heure habituelle d'ouverture des bureaux au public et fera l'objet d'un affichage. D'autoriser en conséquence le maire à procéder à toute démarche et signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Et enfin, de dire que la déclaration de projet fera l'objet des formalités de publicité prévues par le CGCT et par les articles R126-1 et suivants du Code de l'environnement. Que chacune des formalités de publicité mentionnera le ou les lieux publics où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet, que la déclaration de projet sera transmise en préfecture dans le délai imparti, permettant ainsi à Monsieur le Préfet de décider de la déclaration d'utilité publique de l'opération. Merci.
Bien. Oui. Monsieur Bourguet.
Oui, donc je voudrais faire une déclaration un petit peu longue, je m'excuse, mais comme on arrive à un moment clé de cette histoire de la Font de Moggio, j'ai écrit ce que je voulais dire, même si ce n'est pas trop dans mes habitudes, mais c'était pour ne rien oublier. Tout d'abord, je voudrais constater que c'est la première fois, et c'est bien malheureux depuis tant d'années, que nous avons à nous prononcer sur le débat de fond, c'est-à-dire sur ce projet est-il indispensable à notre commune. C'est bien la question qui se pose aujourd'hui et à laquelle devra répondre le préfet en validant ou pas une DUP. En ma qualité de porte-parole d'un mouvement citoyen dont l'ADN politique principal est la démocratie participative, je vais reprendre une revendication venue subitement de l'actualité par les Gilets jaunes, mais qui est la nôtre depuis toujours. Ce projet aurait mérité un référendum d'initiative citoyenne. Un référendum aurait permis d'avoir le débat sur l'utilité publique de la Font de Moggio tel que proposé. Le débat aurait bien sûr dû avoir lieu bien avant d'engager de l'argent et des achats de terrain. On nous demande donc aujourd'hui de se prononcer sur l'utilité publique du projet. Nous demandons depuis longtemps une étude qui justifie ce projet. Une enquête publique vient de se dérouler. L'aménageur n'a pas daigné fournir cette étude. Si je m'en réfère au courrier du préfet de région du mois d'octobre 2018, courrier dont j'ai l'intégralité ici en ma possession, il n'est plus possible en Occitanie d'urbaniser sur des terres agricoles sans avoir une étude précise des alternatives à l'étalement urbain. Une dame vous interroge dans l'enquête publique, en ces termes, pourquoi ne pas avoir fait des logements plutôt qu'un parking sur la partie que vous avez démolie de la cave coopérative ? Réponse de Loire Aménagement, hors sujet. Hors sujet, alors que c'est ça le cœur du sujet. Donc, suite à ma demande, en réponse à l'étude sur les alternatives à l'étalement urbain, l'aménageur fournit au commissaire enquêteur le fameux schéma directeur. Ce document ne figure pas dans les annexes de la convocation du Conseil d'aujourd'hui, d'ailleurs. Ce document ne figurait pas dans l'enquête publique, privant les citoyens du centre du sujet, parce que là on est au cœur du sujet. J'ai demandé ce document et David Banque me l'a communiqué. J'ai trouvé ce que je savais que j'y trouverais, puisque c'est le même document qui existe depuis 2017. Une vague estimation, on nous dit, possibilité de créer 320 logements dans l'emprise urbaine. Aucun détail sur l'enquête, sur la méthodologie, aucun parcellaire n'est fourni, aucun détail sur les zones étudiées. A-t-on inclus Carnon, les écarts, les hameaux, les masses de plaine? A-t-on inclus la densification sans extension, c'est-à-dire le découpage? A-t-on inclus le rapprochement des lieux d'habitation et des lieux de travail ou de service, c'est-à-dire la construction de logements dans les zones d'activité? A-t-on inclus la conversion de logements du privé vers le social au moyen de partenariats avec les bailleurs privés? A-t-on inclus les 300 logements vacants? A-t-on inclus la fusion et la rénovation de studios inadaptés à Carnon pour en faire du logement viable à l'année? A-t-on inclus les maisons démodées de première génération qui ne se vendent plus et qui sont un patrimoine à réhabiliter? Et je rajoute à cela que vous n'avez pas gardé la maîtrise sur tout ce qui se construit et s'identifie au fil des ans au bon vouloir des promoteurs. Il y avait et il y a encore des sites qui seraient appropriés pour une résidence senior qui, à mon avis, n'a rien à faire dans le quartier excentré de la Font de Montguyot. Il y avait et il y a encore des sites disponibles pour des petites unités d'habitat participatif ou pour du logement pour du primo-accédant. Mais non, vous n'avez travaillé qu'avec l'obsession de l'étalement urbain de la Font de Montguyot et en plus en naviguant à vue, sans études préalables, on en a vu les dégâts financiers avec le nouveau PPRI et la ZAC en 2011 qui avait été faite sans les avis de l'autorité environnementale. Alors moi je vous le dis, tant que ce travail n'est pas fait, rue par rue, quartier par quartier, sur l'ensemble de la commune, on ne peut pas répondre à l'utilité publique de votre projet. Je vais maintenant parler des dossiers techniques, agricoles et hydrauliques et du déroulement de l'enquête publique. L'enquête publique a été ponctuée de déni de démocratie, et y compris, encore dans l'article de presse d'hier dans le Midi Libre, assorti d'au moins deux mensonges. La mise en scène de la réservation des lots auprès du public, grande messe au théâtre Bassager en pleine enquête publique, dire aux gens de réserver avant le 19 octobre, dernier jour de l'enquête publique, tout ça pour démobiliser les citoyens, tout ça pour faire croire que tout est joué, circuler, il n'y a rien à voir. Vous vous exprimez ou pas, le projet se fera tel que le prince l'a décidé. Le commissaire enquêteur l'a dit à demi-mot. Lui aussi a été choqué par cette méthode. Déni de démocratie toujours. L'affichage n'est pas conforme à la loi. Les lettres sont trop petites. Nous avons fait un constat d'huissier à l'appui. Ce n'est pas un détail. Si la loi a calibré la dimension des lettres de manière très précise, ce n'est pas pour la beauté des affiches, mais c'est bien pour garantir leur lisibilité. Et que dire des affiches qui étaient apposées en zone en travaux totalement interdites à la circulation? Et des dignes de démocratie toujours, l'article du Midi Libre d'hier qui annonce que tout est joué. Monsieur le maire, avez-vous le droit aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, de construire votre Font de Montguyot? Eh bien non. Autre mensonge dans l'article d'hier, la Font ne coûte pas un sou aux contribuables melgoriens. Et le fossé, 600 000 euros. Et les 60 000 euros par an que l'on paye à leur aménagement pour gérer le dossier. Et les 700 000 euros des terrains que l'on a rachetés et dont on ne fera rien que des compensations environnementales. Je suis déjà à presque 2 millions d'euros, et j'en oublie. J'ai dit tout à l'heure, dans le dossier présenté aux citoyens, pas de schéma directeur, et encore moins d'études des alternatives. Mais une autre étude pourtant était absente, l'étude agricole, vous l'avez dit dans la présentation. Qui parmi vous ici dans cette assemblée a lu l'étude agricole? Personne, bien sûr. Le public n'y a pas eu accès, et le conseil de ce soir non plus, car elle n'était pas non plus en annexe des pièces jointes. Le commissaire enquêteur a donc émis une réserve pour cette étude manquante. Après clôture de l'enquête publique, l'aménageur fournit une étude. Convocation aujourd'hui, l'étude n'est pas jointe. On nous dit simplement la réserve est levée, l'aménageur a fourni une étude agricole. À lire cette étude, bien sûr moi je l'ai, hein, Monsieur Banque m'a envoyé, merci David. À lire cette étude, j'ai compris pourquoi elle ne figurait pas dans l'enquête publique. Elle aurait soulevé un tollé de protestation. D'abord, elle est tronquée dès le départ. Elle porte sur 19 hectares. 19 hectares, le périmètre de la nouvelle ZAC. Or non, ce n'est pas 19 hectares qui sont prélevés à l'agriculture, mais 30. Car 10 hectares sont réservés à la compensation environnementale. Donc ils sont bien prélevés à l'agriculture. Ensuite, on nous parle de 7 hectares cultivés dans les 3 dernières années. Et puis on calcule les emplois, les chiffres d'affaires sur ces bases. Alors je m'insurge. Bien sûr que les surfaces que vous avez déjà achetées sont en jachère aujourd'hui. Bien sûr qu'il n'y a plus d'investissement sur les terres les plus menacées juridiquement, devenues de fait en état de précarité. Alors, sans votre projet, la fonte de Mouguio, c'est bien 30 hectares qui seraient aujourd'hui cultivés. Donc tous les chiffres de l'étude agricole fournie sont faux. Eh bien oui, c'est incroyable. Et ensuite, parlons des compensations maintenant. On nous propose de compenser 30 hectares de terres cultivables et irriguées par un local de vente directe de producteurs et un hectare d'agroécologie. Je crois qu'on se moque de nous. Pour le reste, on verra, nous dit-on. On essaiera de trouver d'autres terres. Le fou le plus absolu. Exactement la même méthode que pour les schémas directeurs. Là où on voudrait de la réalité, du concret, des chiffres, des surfaces, des numéros de parcelles, eh bien là, il n'y a plus rien. Et je passe sur le plan fourni, le plan du PPRI d'avant, donc les zones rouges, tout ça, ne sont pas les vraies. Et puisqu'on parle de PPRI, que dire de l'étude hydraulique? Certes, en relevant les terrains et en faisant des vides sanitaires, les maisons nouvelles ne seront peut-être pas inondées. Mais que dire des voisins et des lotissements en aval? Nous savons bien que ces terrains de la fonte de Mouguio sont actuellement en zone d'expansion naturelle des eaux, lors des épisodes Cévenol et des crues de la Cadoule, ce qui protège les zones urbanisées avoisinantes. Alors penchons-nous sur l'étude. Référence, le débit de la Cadoule en 2014, 90 mètres cubes seconde. À partir de là, on échafaude des scénarios, des écoulements, des bassins de rétention. Or, depuis 2014, il s'est passé bien des choses. Depuis 2014, on a eu la catastrophe de l'Aude, on en a parlé tout à l'heure. Depuis 2014, on a eu surtout les études du GIEC, Groupement interministériel d'études sur le climat. Ces études scientifiques évaluent l'influence du réchauffement climatique sur les épisodes Cévenol. Les résultats sont alarmants, mais ne sont apparemment pas arrivés jusqu'à Mouguio. Ces études disent que les épisodes Cévenol vont croître en intensité de 20 à 50% dans le sud de la France d'ici à 30 ans. Donc l'étude hydraulique qui nous concerne doit être revue avec un débit de la Cagoudoule à 130 ou 140 mètres cubes seconde. Ne pas faire cela serait irresponsable. Nous avons demandé dans l'enquête publique une étude d'impact sur le commerce existant, puisque le projet annonce 1200 mètres carrés de surface commerciale et un cabinet médical, alors qu'il n'y en a même pas très loin. Pas de réponse sur ce sujet. Monsieur le maire, je vous le dis, ici, devant cette assemblée, au vu de ces imprécisions, de ces omissions, de ces manquements, j'ai demandé au préfet de l'Hérault que l'enquête publique soit reconnue caduque, que le dossier revienne devant les citoyens, mais avec bien sûr tous les éléments manquants tels que je viens de les développer. Merci de m'avoir écouté.
Nous avons au moins cette qualité de vous avoir écouté. Bien, écoutez, je ne ferai pas de commentaires superflus, vous êtes dans une posture que nous connaissons. Moi, je pense aux 190 ou 200 familles qui attendent un logement à Mouguio. Je préfère une voix de l'opposition quand elle est constructive. Je préfère discuter avec Laurent Pradeille, par exemple, quand on travaille sur le volet social, l'acceptation du logement social dans les différentes tranches où nous avons effectivement échangé. On a croisé nos idées. On n'a pas croisé le fer parce que nous sommes convaincus que la redensification urbaine que vous avez évoquée, qui nous a pas échappé, les 320 ou 350 logements, bien sûr que nous allons les faire petit à petit, bien sûr. Mais l'État ne nous autorise à nous étendre que dès lors que nous travaillons sur la redensification urbaine. Et je suis ravi de trouver des partenaires dans l'opposition, en tout cas telle qu'elle est formalisée autour de cette table, pas forcément au niveau des idées, et que nous ayons pu justement, avec leur aménagement, qui a toujours eu sa porte ouverte, M. Bourguet, vous le savez, notre directrice, Mme Sori, a comme consigne, et même si elle n'a pas la consigne, elle le fait naturellement, elle ouvre sa porte aux sociétaires dont vous faites partie parce que vous êtes élus, pour répondre à toute forme de questions sur
le projet qu'elle est en charge de conduire au titre d'une délégation que la commune lui a signée. Et donc je terminerai en disant simplement que nous avons réussi à progresser dans l'étude de ce dossier où nous sommes arrivés à intégrer 30% de logements locatifs aidés. Il y en aura 63 dans la première tranche. Je vous annonce aussi que la loi a un peu évolué. Nous avons des accessions SPLA, les accessions prêts sociaux locatifs PSLA, les prêts sociaux locatifs aidés, font désormais partie des logements éligibles au logement locatif social. À cela, nous avons travaillé sur une recomposition des lots pour arriver, disons, à équilibrer cette intégration, j'allais dire, bien concertée des personnes qui souhaitent accéder au logement social, de sorte que l'intégration se fera de manière équitable, proportionnellement, sur chacune des tranches, sur les quatre tranches. Et je vous remercie, M. Pradé, pour votre collaboration. Après, bien entendu, M. Bonguet, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais laisser entendre que l'État instruit avec le commissaire enquêteur une affaire sans tenir compte des obligations administratives, sans tenir compte des lois de la République auxquelles on se soumet volontiers. C'est pas un caprice d'une mandature, c'est un peu vrai, c'est une vision dans le temps, vous ne la partagez pas, je le regrette, ça vous regarde, monsieur le préfet jugera la suite qu'il va donner à votre recours, monsieur Bonguet. Voilà. Dans moi, en tout cas, aujourd'hui, je vous propose l'adoption de cette déclaration, de ce projet de déclaration préalable, tel que monsieur Cassard l'a exposé, à moins qu'il y ait une autre intervention parmi vous.
Oui, moi, monsieur le maire, je dois vous dire ma satisfaction sur le volet social de cette première tranche. On a eu plusieurs accrochages, et ça depuis plus de 4 ans, sur les fameux 30% qui étaient prescrits par le PLH. On a eu un premier échange où il y avait une première conformation à 19%, puis une autre à 24 ou 25%. Et là, on tombe à 30%. Donc, on est bien d'accord, sur 209 logements, ça fait 63 logements. Donc, ça fait, par rapport à nos efforts, ça fait 25...
Sur la première tranche,
qui aura lieu jusqu'en 2020 à peu près.
Un peu plus.
Ouais, 2020, 21.
Oui, 21.
Bon. Donc ça, c'est un effort.
Ça a été un effort technique.
Oui. Donc moi, je dois dire que j'ai apprécié la manière républicaine dont les services sont mis à disposition et ont travaillé. Donc, et on a pu trouver, en bougeant un peu tous les coins de la pièce, on a réussi à monter à 30%. Ça fait 25 familles en plus.
Bon.
Ça nous permet...
Elles y étaient déjà, mais elles seront
accueillies
en première ligne.
C'est tout de suite. Hein. C'est voilà, tout de suite. Hein. Ce qui veut dire que si... la vie politique, c'est pas de se représenter systématiquement à toutes les élections. Moi, au moins, si la fois prochaine...
On a la conscience, c'est très bien fait, M. Pradeil.
Si la fois prochaine, je me mets à la pêche en face de ma porte, on aura au moins logé ensemble 25 familles de plus. Ce qui n'est pas une activité vaine. Et ça correspond peut-être pas de manière spectaculaire, mais ça correspond à un début des solutions dans notre terroir à nous, de ce que subit notre pays, et vous voyez, il y a une actualité, on n'a pas besoin de la décrire, on aura fait ça en plus. Donc moi, par rapport à ça, on a œuvré, on s'est disputé, c'était des saines disputes, et on arrive à avoir une solution ensemble, je m'en satisfais. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas toutes les inquiétudes, tout ce qu'a décrit M. Bourguet, sont des inquiétudes posées. La question des commerces, qu'il faut continuer à travailler, la question hydro, qu'il faut vérifier. Bon, c'est un débat qui continue. Mais la méthode qui permet d'avoir un échange et de dire voilà comment on prend le dossier et comment on l'améliore, est une méthode satisfaisante. Donc moi, par rapport traditionnellement, je vote tout le temps contre les dossiers de la forme de Mouguiot, parce que je trouvais que le fait qu'on ne donne pas l'exemple, c'était pas bon. C'était pas bon pour les autres investisseurs. Bon, là, on va donner l'exemple, on rentre dans les clous de la loi. J'espère que le fait de donner l'exemple, ça va permettre de faire baisser le prix du mètre carré sur Mouguiot. J'attire votre attention sur un outil qu'on a. On a décidé de caper les prix en sortie à 3007, entre 3000 et 3007. J'ai vu une inflexion dans la communication, 3000 à 3007. Si on fait cet effort de caper et de faire baisser le prix de ce qu'on vend nous, ça permet d'impacter sur le reste du marché. Donc ça ne sert pas que sur les 200 logements. Si on a un effet, ça permet de faire baisser le marché sur la ville. C'est une stratégie.
Tu signales qu'à 3007, on est au-dessus du marché actuel.
Oui. On est bien d'accord. On est bien d'accord que il y a certains logements qui finissent à 3007, mais ce sont des logements d'exception.
Ajoutez, M. Pradeil, aux 30% de logements locatifs aidés, les 15% de logements abordables. C'est-à-dire qu'on arrive à 46% de logements à des tarifs, j'allais dire, nettement inférieurs. Honnêtement, on se mettra d'accord sur le terme ou pas.
Non.
Enfin, qui sont inférieurs au prix du marché. Si vous achetez un terrain en Mulhouse ou plein des airs à l'ONU, vous verrez à combien vous l'achetez, ou combien vous l'achetez ici à Mouguiot, si vous l'achetez en promoteur privé. Et vous me direz, je vous rembourse la différence.
Les derniers se sont vendus à 3000, au prix vous faites les moins chers.
Moi, je pense que c'est un dossier qui mérite de mûrir. Et il faut continuer à tenir le prix très serré, y compris à la réalisation, qui est une partie, c'est les promoteurs qui ont la clé. Il faut impacter le plus possible sur le marché à Mouguiot pour envoyer le signal que la municipalité maîtrise le marché du foncier et se laisse pas envahir.
C'est donc une opération.
Donc ça, mais il faut que ça réussisse. Donc on a un début de solution. Il faut qu'on continue à être serré. Je pense que c'est la méthode qu'on a utilisée est une méthode intéressante. Je pense qu'elle mériterait qu'on la développe. Hein. La méthode
constructive, c'est très intéressant. Merci, M. Faudet. M. Trapoli.
Oui, M. le maire, moi, je voudrais savoir où vous en êtes de l'acquisition des terrains, parce que je crois savoir que vous êtes toujours en procès avec certains propriétaires, que certains propriétaires n'ont pas eu de proposition, notamment pour pouvoir déplacer leurs locaux. Et après, en ce qui concerne l'appartenance des appartements, l'octroi des appartements sociaux, quelle est la priorité qui est faite aux gens de Mouguiot par rapport au nombre d'appartements sociaux que vous proposez?
Alors, pour vous répondre, aujourd'hui, la SPL possède 13 hectares et demi sur les 19 hectares de la ZAC. Nous avons, par rapport aux propriétaires qui ont des biens, nous avons différé l'aménagement des zones dans lesquelles ils sont implantés en les mettant dans la tranche 2, c'est-à-dire qu'on leur fait gagner entre 2 et 3 ans. Nous leur avons proposé des solutions de remplacement pour le hangar, qu'ils n'ont pas accepté. Nous avons écrit récemment, mais peut-être le courrier ne vous l'avez pas encore lu, mais on leur a écrit récemment pour leur faire d'ultimes propositions à l'amiable, avant de passer à un acte qui n'est pas le meilleur dans ce que nous faisons, la déclaration d'une utilité publique. Voilà. Donc là-dessus, les personnes sont. Les négociations, on leur a proposé un hangar, on leur a proposé des indemnisations correspondant à l'évaluation des domaines. Une personne qui a plus de 70 ans, 73, 74 ans, bon, ça nous paraissait moins compliqué qu'un jeune agriculteur dont il aurait fallu reloger, on parlait d'un hangar, voilà, hein, voilà, et d'une maison d'habitation, ce qui n'est pas négligeable. Nous respectons parfaitement les propriétaires et nous essayons d'aller au bout du bout en termes de négociation. Voilà ce que je peux vous dire.
Et en ce qui concerne les appartements sociaux sur le plan mondial, c'est quand même... Voilà.
Alors, les appartements, vous le savez, les attributions se font avec une commission. Les attributeurs, les Promologie, qui est le partenaire, le bailleur social du constructeur Cyrus Pégase, qui fera le premier lot, était le bailleur social de celui que nous avions lorsqu'on avait les ateliers municipaux. Sur 33 attributions, on en a eu 30. Donc nous sommes avec Promologie dans des dispositions où le bailleur social cédera ce qui lui revient à la commune en termes de choix pour justement privilégier les personnes qui habitent sur Monguio. Pour autant, tout le quota n'est pas réservé qu'à des gens de Monguio. C'est la loi qu'elle dispose. Nous faisons tout justement pour instruire au mieux les demandes des urgences que nous avons recensées, et on a pratiquement 200 familles aujourd'hui qui sont éligibles au logement social, et croyez bien que le CCAS, Mme Sanchez-Bresson, Mme Vianez, la directrice, travaille d'arrache-pied pour mettre en place les critères qui sont déjà transparents, qui permettent, disons, de prioriser les personnes qui habitent Mouguio, qui sont dans l'attente d'un logement depuis des années, puisque ces programmes qui ont été retardés auraient pu satisfaire des gens beaucoup plus tôt.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais en termes de pourcentage, ça fait combien à peu près sur les vous proposez là 230 appartements sociaux. En termes de pourcentage, pour les mêmes de rien, ça fait combien?
Je ne peux pas. Je serais malhonnête, je suis pas un bataleur de foire. Je ne peux pas vous promettre ce que je ne maîtrise pas, monsieur Frappoli. Ce que je peux vous dire, c'est que au cours des dernières années, on est arrivé en règle générale à avoir 3 logements sur 4 à peu près, en gros. 3 logements sur 4 reviennent à des mégorées. Voilà. À peu près.
C'est pas le retour.
Ah ben écoutez, on parlera de chiffres avec les vrais chiffres, si vous voulez. Voilà. Mais j'accepte la contradiction dès lors qu'elle est saine et qu'elle est fondée. Parce que tout à l'heure, M. Bourguet, vous avez dit quelque chose. On ne va pas refaire, je ne vais pas faire le commentaire de vous dire, simplement pour vous dire que la commune, elle a acheté du terrain, elle a vendu du terrain à l'ASPLA au prix du terrain agricole, et la commune lui a payé, pas la commune, le remboursement s'est fait sur la base du terrain à bâtir, c'est-à-dire que la commune a racheté à la SPL un terrain pour 450 000 euros, alors que ce terrain valait 7 fois plus. Voilà. On l'a intégré à l'opération, on a travaillé sur la redensification, et ça sera payé par l'ensemble des 750 personnes qui sont là-dessus et qui, malgré ce, bénéficieront d'un prix de marché et d'un prix capé moins cher que ce qui se pratique dans le logement privé. Enfin, on ne va pas abonder jusqu'à demain, les faits parleront d'eux-mêmes et on verra au fur et à mesure des réalisations comment les choses évolueront. En tout cas, la ligne est tracée, les prix sont fixés, et c'est la première fois depuis fort longtemps, même dans des mandatures que vous avez évoquées, M. Pradeil, où de manière aussi importante et massive, on peut garantir à des gens, au fur et à mesure que les réalisations se feront, bien entendu, des prix de marché qui sont contenus, parce que ce problème d'accessibilité au logement, de socialisation des gens, de donner un toit à tout le monde, on ne le connaissait pas, on s'est paupérisé depuis des années. Et c'est pour ça qu'on mène une politique publique pour permettre à chacun d'accéder au logement, le droit au logement. Voilà, c'est essentiel. Je ne veux pas alimenter le débat plus que ça. Monsieur Pradeil.
Juste une explication de vote. Habituellement, je vote contre. Là, je vais m'abstenir. Ne pensez pas que c'est de l'eau tiède. Quand on s'abstient, ça veut dire qu'on laisse faire. Parce que dans tout ce que... Là, c'est l'autorisation générale. Si vous voulez, on peut discuter du prix, de l'hydraulique, de l'impact commerce. Tout ça, c'est des vrais bons dossiers qui méritent un vrai bon travail. Mais là, au vu du... Au vu du volet social, je ne m'oppose pas au dossier, je laisse faire. C'est ça que ça veut dire.
Un progrès. Merci, M. Pradeil. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 16. Toujours M. Cassard, Bernard.
Donc c'est un avis sur la mise en compatibilité du PLU avec la ZAC de la France Mobio. Comme vous le savez, le PLU actuel ne permet pas la réalisation de la France Mobio car la ZAC est actuellement classée en zone AU, c'est-à-dire en urbanisation future bloquée. Cependant, l'article L153-54 du Code de l'urbanisme offre la possibilité de déclarer d'utilité publique un projet et de mettre le PLU en compatibilité simultanément. Cette mise en compatibilité a donc été soumise à l'examen conjoint de personnes publiques associées en juin 2018 qui ont donné un avis favorable. Je ne reviendrai pas sur les conclusions de l'enquête publique qui a été évoquée précédemment. Donc cette mise en compatibilité consiste à la création d'une zone 1 à UV assortie d'une orientation d'aménagement et de programmation. Le dossier de mise en compatibilité qui a été joint, je pense, à l'envoi, est prêt. Et donc, à la demande du préfet, il convient que la commune donne aujourd'hui un avis favorable avant qu'il ne se prononce, lui, sur l'utilité publique du projet.
Oui, j'ai une question que j'ai posée dans l'enquête publique à ce sujet. Comment ça se fait que dans la mise en conformité du PLU, on a laissé les zones qui sont rendues naturelles, les fameux 10 hectares, pour qu'on les a laissées en zone AU? Parce que ces terrains-là ne devraient pas rester en zone AU, ça veut dire que dans 20 ans, on pourra les construire.
Non, mais la zone AU interdit la construction.
Non.
Si, elle interdit.
Vous venez de le dire ce que ça veut dire, AU. Ça veut dire qu'un jour, ça sera constructible.
Non. Un jour, ça peut être autorisé.
Il y a une autre notification. On peut dire non constructible, on peut dire zone naturelle, on peut dire zone agricole. Mais zone AU, c'est une zone qui peut être potentiellement constructible.
Une zone AU peut être constructible sous certaines conditions.
Oui,
c'est à long terme.
C'est une zone futurement constructible.
À long terme, avec effectivement des conditions obligatoires.
Zone d'urbanisation future, vous venez de le dire.
Monsieur Bourguet, le porter à connaissance de l'État est très prescriptif, il nous interdit de le faire, et dans la révision du PLU qui va être faite, que nous envisageons, la constructibilité sera retirée ipso facto.
Ouais, ça sera retiré de la zone AU.
Oui, mais pas en même temps que la compatibilité. Ça sera fait lors de la révision. Vous savez qu'on est en pleine révision, enfin, on est en train de lancer une révision du PLU, une révision. Donc, ça sera effectivement inclus dans la révision du PLU, mais pour l'instant, avec la mise en compatibilité, ça n'est pas modifié. Mais on ne risque rien puisque, pour l'instant, c'est une zone à long terme. D'accord. Et le PLU sera révisé en 2019-2020. Donc voilà.
Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 17, toujours Bernard.
Alors, toujours à la Fonde Mobio, renonciation à droit de retour dans le cadre de la vente communauté d'agglomération du Pays de l'Or, SPL, leur aménagement pour les parcelles C1, C2, C3 et C4. Afin de permettre la réalisation du projet, la SPL doit acquérir les dernières parcelles, parmi lesquelles figure une partie des terrains d'assiette du surpresseur. Ces parcelles C1, 2, 3 et 4, qui font 2 900 m², ont été vendues en 1995 par la commune au Sivom, à l'époque, en se réservant un droit de retour à titre gratuit, au cas où ils ne seraient pas affectés à l'exercice de la compétence d'eau potable. Donc, c'est-à-dire, on les a vendus, et s'ils ne les consacrent pas à l'eau potable, on peut les reprendre. Ces parcelles ont déjà été déclassées par l'agglomération, lors du conseil d'agglomération, afin d'en permettre l'acquisition par la SPL. Mais elles restent toujours grevées, du droit de retour qui est constaté en 1995. Donc, pour permettre effectivement l'acquisition définitive de ces parcelles par la SPL auprès de l'agglomération, il convient de retirer notre droit de retour, d'abandonner notre droit de retour. C'est ce qui vous est demandé ce soir.
Question. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, toujours.
Alors, le point 18, on change de lieu, c'est la désaffectation des locaux des écoles élémentaires et maternelles Prévert et transfert dans l'école Albert Camus.
Dans le cadre de la réhabilitation de l'île au Prévert, suite à la fermeture administrative de l'école Prévert, et conformément à la circulaire interministérielle du 25 août 1995, le maire a sollicité le 4 avril 2018 l'avis formel du préfet sur la désaffectation des locaux des écoles élémentaires et maternelles. Le 19 octobre, M. le préfet a émis un avis favorable à cette désaffectation en accord avec M. le directeur académique des services de l'éducation nationale. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la désaffectation des locaux des écoles élémentaires et maternelles Prévert et leur transfert dans l'école Albert Camus et d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à cette procédure.
Bien, je prends de nouveau, on passe au vote, contre, abstention, je vous remercie. Le 19, Bernard.
Alors, le 19, c'est l'avis de la commune de Moggio pour l'autorisation environnementale par la société Neximo. Donc, par arrêté du... par arrêté, pardon, 2018-1-2229 du 19 novembre, M. le préfet a défini les modalités d'enquête publique relatives à la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Neximo en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un entrepôt logistique sur la zone de fret de l'aéroport devant accueillir la société ASICS. Cet arrêté prévoit que la commune doit donner son avis sur cette demande d'autorisation. Il vous est donc demandé de bien vouloir donner un avis favorable. Sachant que, comme vous allez certainement l'évoquer, la société ASICS, il a été annoncé que la société ASICS ne viendrait plus sur notre territoire. Nous avons demandé au préfet, avant de vous présenter ce point, nous avons demandé au préfet s'il était toujours d'actualité. Il nous a répondu qu'il n'y avait pas d'information officielle de la part de la société ASICS de sa non-venue sur le territoire, elle n'avait pas retiré son dossier de candidature. Donc le préfet nous a demandé de maintenir le point à l'ordre du jour. Voilà.
Oui, j'ajoute que, effectivement, la région s'apprête peut-être à enlever la patte, la prime à l'aménagement au territoire qu'elle devait voter. Il est question qu'elle l'enlève. Pour ce qui nous concerne, les informations dont nous disposons, dans un premier temps, nous laissons entendre qu'ASICS, effectivement, était perdu pour le territoire, mais d'autres informations nous disent que la terre d'élection que pensait avoir ASICS n'est pas aussi fertile que ce qu'elle imaginait. Et que donc, pour le moment, c'est un peu comme quand vous êtes mené 2-1 à la 89e minute, tant qu'on n'a pas joué les arrêts de jeu, la victoire est encore possible. Je ne suis pas en train de dire que ça va changer. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit, pour avoir déjà inscrit ce point à l'ordre du jour, nous n'avons pas le droit de ne pas imaginer que l'hypothèse est toujours jouable. Si elle ne l'est plus, nous refermerons le dossier. Voilà. Voilà, c'est tout. Tout ce que je peux dire. Prudence, c'est tout. Voilà. On dit, ben, si ça mange pas de peine de le voter. Si toutefois ça avorte, eh bien, ça ne sera pas parce qu'on aura anticipé sur la mort programmée d'une installation d'entreprise pour laquelle toutes les collectivités se sont mobilisées de belle manière. On a même fait des conférences de presse, on a bonne mine. Hein. Mais que voulez-vous? Quand quelqu'un, c'est comme des fiançailles qui sont rompues. Voilà. Donc, nous attendons.
C'est la deuxième fois du mandat.
Comment dire?
Au premier procès du mandat, il s'est déjà marré, alors. C'est un peu pour me connaître.
Vous voyez, c'est un peu la vie, hein. Si les romanciers ont autant de succès, Pomponette, hein, c'est que parce qu'il y a vraiment un fond de vérité. Voilà. Bon, allez, je vous propose qu'on vote. Si vous ne voulez pas voter, vous ne votez pas, mais moi je vous le propose. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours
c'est encore moi.
Le maillot jaune. C'est pas le gilet jaune, c'est le maillot jaune.
Alors, il y a trois propositions dans ce point. l'intégration au domaine public des voies et réseaux du bassin de rétention du lotissement Les Coquelicots, l'intégration au domaine public des voies, réseaux et bassins de rétention du lotissement Les Jardins d'Annette et l'intégration au domaine public des voies et réseaux du lotissement de Palmeraie. Ces trois propositions ont la même raison. Vous savez que chaque fois qu'un lotissement se crée, il y a une convention qui est signée entre le réalisateur et la commune pour que les voies et parties communes des lotissements soient recédées au domaine public. Alors ces trois conventions ont été signées. Il y en a une qui a été signée le 17 novembre 1994 avec les Coquelicots pour les... Je ne sais plus où c'est. Ah oui, c'est la convention pour... Pardon ?
Ce n'est pas hier.
Non, c'est pas hier. Les deux palmeries, c'était le 5 décembre 1997. Et l'autre, les deux, aussi le 7 décembre 1997 pour le troisième. Donc, il est proposé, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, puisqu'on le fait pratiquement une fois, au moins une ou deux fois par an, il vous est proposé de reverser dans le domaine public, d'accepter le reversement dans le domaine public de ces voies. Étant donné que ces voies sont ouvertes à la circulation, il n'y a pas besoin de déclaration d'utilité publique. Et bien sûr, ces voies, avant d'être acceptées dans le domaine public, ont fait l'objet d'une étude par les services techniques pour voir si elles étaient en état. Voilà.
Bien. Allez, on passe au vote. Contre. Abstention. Les Coquelicots font recette, M. Bourguet. Point numéro 20.
Le premier vendredi de chaque mois.
Oui.
Devant la mairie.
Intégration de domaine public des voies, réseaux et bassins de rétention du lotissement Les Jardins d'Annette. On a passé. Allez, on va passer. Patricia, Madame Moulin-Trafort va nous parler d'une reconduction express, on en a besoin, de l'autorisation du domaine public pour l'organisation d'une fête foraine à Carras.
Voilà, il s'agit de la reconduction d'autorisation d'occupation du domaine public pour la fête foraine de Carnon. Donc le 4 mai 2018, nous avons lancé une publicité afin de mettre en concurrence l'occupation du domaine public pour l'installation et l'exploitation d'activités d'animation foraine, ainsi que le stockage des tracteurs, des remorques et des caravanes des foraines à Carnon. Donc c'est l'organisation animation du parc d'attractions de la ville de Carnon qui a été retenue. La première période d'occupation s'étant achevée le 30 septembre 2018, et conformément aux termes de la dite convention, la commune peut autoriser une reconduction express de l'occupation du domaine public pour l'année 2019. Il est donc proposé au conseil municipal de renouveler pour 2019 cette occupation pour la période du 9 juin 2019 au 2 septembre 2019, et ce pour un montant de 27 millions.
Merci Patti.
Excusez-moi, il y a une augmentation de... Du loyer par rapport à l'an dernier ?
Non, c'est le même.
C'est le même ?
C'est le même.
Je n'aurais pu penser à augmenter un peu les intérêts, peut-être.
C'est-à-dire que la commune...
le marché a été signé sur cette,
sur cette somme-là.
Une reconduction.
Voilà. C'est juste une reconduction. Le marché public a été remporté. Enfin, l'appel d'offre a été remporté sur cette somme.
Non,
mais on ne peut pas. Le code du marché ne nous autorise pas à faire ça.
Bon, ça ne serait pas privé. Bon, on a dit que c'était express. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point 22, toujours.
Alors, point 22. Alors, par la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, les commerces peuvent avoir la possibilité d'ouvrir le dimanche dans certaines conditions. Alors, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a rendu un avis favorable par rapport à notre proposition de date. Donc, 4 dimanches sont proposés pour la branche automobile et 12 dimanches pour les autres types de commerce. Il vous est donc demandé d'autoriser l'ouverture dominicale des commerces sur la commune de Mauvieux-Cardon selon les dates qui sont citées dans cette délibération.
Oui. Bien. Passe au vote. Contre. Abstention. Une abstention, merci. Point 23, par contre.
Monsieur le maire, je profite de la question de la délibération, si vous permettez. Peut-être qu'on ait un jour une étude et un vrai débat de conseil municipal sur le commerce. serait bien, ça, on n'a pas eu de vraie réponse à une question là-dessus, au début du mandat. Or, c'est le sujet, le temps que notre député revienne au Québec.
Oui. Effectivement,
ils travaillent dessus en même temps. Donc, c'est vrai que son aide. Ça serait bien qu'on travaille là-dessus, parce que ça nous intéresse.
Le travail sur les déplacements urbains, il y a une étude sur l'axe urbain qui sera apportée à votre connaissance en quelques temps, dont on n'a pas les conclusions, va rebrasser les cartes, et bien entendu sur le travail qui est fait avec l'installation de futurs commerces sur la faune de Mogio, bien entendu un travail de consultation va se faire avec la profession, le dialogue déjà noué, il y aura des réunions là-dessus pour justement travailler sur la complémentarité et pas sur la concurrence, ou peut-être sur... Des dispositions qui pourraient se faire et ici et là-bas pour un même commerce. La priorité sera donnée comme sociale pour les installations, ceux qui sont déjà. Bien, on passe, on avait voté, je crois. Oui. Allez, point, mais votre suggestion est tout à fait recevable. David et Cinéplan.
Alors, le point suivant, le partenariat entre la ville et l'association Cinéplan, comme tous les ans, nous le renouvelons. Donc, la programmation mensuelle permet de toucher large public par une offre qui est variée, puis une offre de proximité, tous les derniers mardis du mois à 20h30 à passager. Le prix reste identique, pas d'inflation là non plus, 4€ pour une séance classique et 5€ pour les séances en 3D. Voilà, la proposition du renouvellement du partenariat avec Cinéplan. Donc, on vous demande d'autoriser M. le maire à signer cette convention avec cette association.
C'est une affaire qui marche bien, Cinéplan.
Oui.
Allez, on passe au vote. Contre, abstention, merci. Point 24, Patrick.
Alors, point 24, on repart en été. Comme tous les ans, nous marquons notre volonté de procéder au reversement des recettes qui sont relatives à la vente des bracelets lors de la fête votive, donc de 2018, aux différents clubs touristiques de la commune. La somme récoltée cette année est de 4 575 €, qui seront donc équitablement répartis entre les quatre clubs touristiques à hauteur de 1 143,75 € chacun. Oui, c'est trois clubs touristiques et l'école de Razedan, quand je dis quatre clubs.
Oui, en fait, c'est de l'économie circulaire. Ce qu'on récupère, on le réinjecte.
Et on le réinjecte directement. Voilà.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour eux. D'autres œuvres à la commune ?
Alors, il s'agit ici de présenter le recensement des œuvres d'art qui ont été offertes à la commune par des artistes qui exposaient à la galerie d'art à Moratel. Alors, 6 œuvres entrent dans le fonds communal. Vous en avez la liste sous les yeux, avec un petit tableau et le visuel des œuvres. Voilà. On vous demande de prendre acte de ce recensement.
On prend acte, Madame Moulin. Point 26. Dédommagement des spectateurs n'ayant pas pu se rendre à la représentation du spectacle à Califourchon le 28 février 2018.
Oui, alors. Les cinémas en Californie, ça a été compliqué. C'est un point qui s'attache à vous présenter la proposition de dédommagement pour les personnes qui avaient acheté des places au spectacle Californie lors de l'épisode neigeux de l'année 2018. Alors, 6 personnes n'ont pas pu se déplacer, mais l'alerte rouge n'ayant pas été déclenchée, il n'a pas été possible de rembourser les places parce qu'on ne peut le faire que si l'alerte rouge est déclenchée. Voilà, 6. Donc, ils ne sont pas venus. Donc, la ville propose de leur offrir à titre compensatoire des places de spectacle jeune public dans la programmation 2018-2019. Donc, il vous est demandé d'autoriser M. le maire à permettre à ces spectateurs malheureux de bénéficier des séances jeunes publics proposées pour la saison 2018-2019.
Bon,
il y a une petite faute.
On pue ou non pue ?
On pue ou non pas pue ?
On pue se déplacer. Les autres n'ont pas pu.
Manque d'annulation.
Oui, manque d'annulation. Seuls 6 personnes ont pu se rendre. Les autres n'ont pas pu.
Allez, on passe au vote. Vous êtes d'accord ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.
Permettez-moi de revenir sur le point 25. J'ai dit on prend acte, mais j'ai oublié de faire voter. Parce qu'il faut voter quand même le point 25. Il faut que vous soyez d'accord pour accepter les œuvres.
Mais oui.
Alors, je reviens sur le point 25. Je vous demande si vous êtes d'accord pour accepter ces œuvres. Contre ? Abstention ? Merci. Voilà, l'heure est en règle. Le point 28, classe transplantée. Le 27 ?
Peut-être le 27 d'abord.
Ah bon ? J'avais laissé.
Elle ne dormit pas.
Sophie, hein, en campagne.
Elle ne dormit pas.
Je vais être rapide. Donc, comme vous le savez, la ville est engagée dans une politique éducative qui soutient les équipes enseignantes pour mener à bien leur projet d'école. Dans ce cadre, la commune supporte les charges liées à la venue d'intervenants extérieurs œuvrant durant le temps scolaire sous la responsabilité pédagogique des enseignants. Ces intervenants sont financés à hauteur de 500 euros par classe pour les écoles maternelles et élémentaires publiques. Pour l'école Notre-Dame, ces intervenants sont financés à hauteur de 250 euros, classe maternelle et élémentaire, soit un total de 30 500 euros pour l'année scolaire 2019. Et tout cela encadré par le biais de conventions dont vous avez la liste exhaustive. Si vous avez des questions, je réponds, sinon j'enchaîne. Je vous demande donc de bien vouloir autoriser M. le maire à signer les dites conventions avec les associations mentionnées ci-dessus, qui sont, je le précise, pour la plupart des associations qu'on a coutume de retrouver sur le territoire et qui sont pour un grand nombre issues de notre commune.
Merci Sophie. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Toujours Sophie, classe transplantée, convention avec les centres d'hébergement et les associations.
Alors, cette année, vous avez pu le lire, nous avons encore une fois un programme assez riche en classe transplantée. Vous avez donc le détail de l'ensemble des départs, c'est assez varié. On note une tendance à beaucoup plus de classes transplantées, sans limiter. C'est-à-dire que les enseignants mettent en place des parcours qui leur permettent de réintégrer les classes à la fin de la journée. Ça permet parfois aussi à des classes avec des enfants plus jeunes de pouvoir faire des projets puisque les parents des fois sont un peu plus réticents à voir leurs enfants partir. Voilà, j'attire juste votre attention sur...
J'ai un collègue qui serait bien une semaine.
Oui, vous aurez pu noter qu'en ce moment, on a pas mal de tendances de travail avec le cirque qui donnera lieu pour notamment la classe Jean Monnet, lieu à un spectacle de fin d'année. Vous avez le détail, si vous avez des questions, là encore, je me tiens à votre disposition pour y répondre. Et je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire ou l'agent délégué aux affaires scolaires à signer les dites conventions.
Classique, merci Sophie. On passe au vote. C'est pas de question. Contre, abstention. Merci. La jeunesse fait l'unanimité. Voyons pour les indemnités versées aux enseignants pour le séjour de classe de neige.
Alors cette année, nous n'avons qu'une demande de départ en classe de neige. Il s'agit d'une classe élémentaire de Carnon. Monsieur le maire expose tout comme tous les ans il convient d'accorder une indemnité aux enseignants des écoles élémentaires qui accompagnent leurs élèves pendant le séjour de classe de neige. Il est proposé de fixer à 152,45 euros pour l'année scolaire 2018-2019, l'indemnité allouée à chaque enseignant, en l'occurrence une seule. Pour 2018-2019, le séjour de l'école élémentaire de Carnon conduira les élèves à Saint-Léger-les-Mélèzes.
Allez, passe au vote. Contre, abstention. Merci. Partenariat entre la commune de Mogui et la MJC lors de l'événement national le jour de la nuit, le 13 octobre 2018.
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que la ville de Mogui-Carnon était partenaire de la MJC de Mogui-Carnon lors de l'événement national le jour de la nuit organisé le 13 octobre 2018. Cet événement vise à sensibiliser le public à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. La MJC a mené de nombreuses actions et animations scientifiques auprès des familles et des enfants, avec notamment la mise en place d'un planétarium à la salle Morastel et des journées ouvertes et dédiées aux écoles élémentaires de la ville les 11 et 12 octobre. Dans le cadre de ce partenariat, pour accueillir le public le plus large possible dans de bonnes conditions, la ville de Mogui-Carnon a mis à disposition gracieusement la salle Morastel pour l'organisation des diverses animations proposées au public par la MJC. Il est donc proposé aux membres du conseil d'approuver la mise à disposition gracieuse de cette salle du 11 au 13 octobre 2018 et d'exonérer la MJC des frais de mise à disposition et de nettoyage afférents.
Bien. Passage au vote. Contre. Abstention. Merci. Monsieur Albert va nous parler d'une convention de partenariat avec la Fédération française de sauvetage et de secourisme et le Centre de ressources et expertise de performance sportive, le CRES de Montpellier.
Le CRES de Montpellier a sollicité la commune de Moulocanon pour l'obtention d'un local en bord de mer destiné à héberger le matériel sportif du Pôle de France de sauvetage et de secourisme. Après étude de cette demande et considérant que l'espace local viking rendu vacant par la création de la nouvelle base de voile, la commune propose d'accueillir cette section de haut niveau au sein du dit local. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec la Fédération française de sauvetage et secourisme et le CREPS. Autoriser M. le maire et l'adjoint délégué au sport et aux sauvetages à signer la convention partenariat de la Fédération française de sauvetage et secourisme et le CREPS. Voilà, c'est pour un peu dans l'image du sport nautique sur Carnot. C'est aussi valorisant pour le France. Voilà, il y a un compte de partie, ils vont faire de publicité sur ce partenariat. Voilà.
On est bien dans la dynamique sportive, merci Jean. On passe au vote. Contre, abstention, merci. Notre club de Moyau-Carnot, complément de subvention de fonctionnement. Jean.
On propose de soutenir l'association le club de Moyau-Carnot en lui versant une subvention complémentaire de fonctionnement d'un montant de 10 500 euros. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire et l'adjoint délégué à signer l'avenant de la convention relative au complément de la subvention de fonctionnement d'un montant de 10 500 euros et à la verser à la SOS. D'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer l'avenant de la convention.
Contre. Monsieur. Abstention. Merci. Volleyball.
La chaîne de volleyball s'est déplacée à Arnès dans le cadre du championnat de France élite féminine le 3 novembre 2018. Ce déplacement n'ayant pas été prévu dans le budget prévisionnel de la SOS, réalisé avant la connaissance des adversaires, le président de l'association sollicite la commune pour l'octroi d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 2000 euros. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire et le joint délégué à signer la convention relative à la subvention exceptionnelle d'un montant de 2000 euros et à verser à l'association concernée. D'autoriser M. le maire ou le joint délégué à signer cette convention.
Voilà, encore une équipe méritante que nous avions laissée, dont on vous propose, pour laquelle on propose un coup de pouce. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Jean. Toujours, 33.
Convention de partenariat avec l'association Amsport. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre de sa politique sportive au regard de l'axe formation au métier du sport, pour les résidents de la commune, il est proposé aux membres du conseil municipal de conventionner avec l'association Amsport dans le siège situé à Carnot. Il est proposé de conclure un partenariat avec l'association Amsport permettant d'offrir à 4 résidents de la commune ayant un projet professionnel en lien avec les thématiques de formation gratuite au diplôme lié au sauvetage aquatique et au secourisme, mais c'est ça, DPGF, AN, PSCE. En contrepartie, la commune met gracieusement à disposition la salle de Lido pendant 2 jours par semaine pendant la période scolaire. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec l'association Amsport, d'autoriser M. le maire ou la jeune délégué au sport de signer la convention de partenariat avec l'association Amsport.
Question. On passe au vote. Contre, abstention. Merci. Monsieur Tricoire, Laurent, va nous parler du personnel municipal et des modifications du tableau des effectifs.
Exactement. Tableau des effectifs, on autorise Monsieur le maire à le modifier et créer un emploi de rédacteur territorial à temps complet pour occuper les fonctions de chargé de communication interne au sein de la direction des ressources humaines sur le tableau des effectifs de la collectivité. Je précise que ce n'est pas un plus un, c'est un agent qui a réussi un concours.
Qui est promu.
On passe au vote.
Oui, excusez-moi, M. Tricoire, il n'y avait qu'une seule personne qui était. Il n'y avait pas quelqu'un qui était plus ancien que lui dans le grade pour pouvoir accéder à cette position.
C'est sur concours et elle est la seule à l'avoir réussi. Pour l'instant.
Il n'y avait pas d'antériorité de quelqu'un qui avait déjà le concours et qui attendait le poste, par exemple.
Non, en principe, quand quelqu'un réussit le concours, on
le vend. Oui, mais bon. C'est pas toujours facile d'avoir des places budgétaires pour avoir les postes. Donc s'il y avait quelqu'un qui était plus ancien, il aurait été normal que ce soit lui qui accède au poste, dans la mesure où c'est un avancement hiérarchique.
Oui, mais sur concours, c'est pas une proposition à la CAP. C'est là, c'est la seule à faire. Merci pour elle.
La lauréate était seule. On passe au vote. Contre,
Abstention. Je vous remercie.
Point 35, indemnité au régisseur. Donc on vous demande de décider de fixer au taux de 100% prévu par la réglementation en vigueur des indemnités de responsabilité attribuées au régisseur d'avance et de recettes de la commune de Mogio-Carnon. Décide de verser les indemnités prévues annuelles au régisseur titulaire et au prorata du temps passé à exercer cette responsabilité au régisseur intérimaire ou au mandataire suppléant.
Bien. C'est du classique.
C'est du classique.
Contre, abstention, merci. Très loin.
Point 36, recensement de la population. Donc, on vous demande d'approuver le principe de répartition de la dotation versée par l'INSEE de 3 695 € pour couvrir l'ensemble des charges liées à cette opération entre les quatre agents recenseurs, soit 923,75 € chacun. Ça, pareil, c'est renouvellement assez classique.
Passage au vote. Contre, abstention. Merci.
Point 37. Recrutement d'agents contractuels pour faire face à un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité. Donc, le premier, c'est la direction de la citoyenneté, qui est chargée de développer la e-démarche. Le deuxième, c'est au service communication, qui est chargé de remettre en place tous les services informatiques liés à la communication. Et le troisième, c'est la direction culture et patrimoine qui correspond à la rénovation du château pour commencer à prévoir l'utilisation et la mise en œuvre. Donc il propose au conseil municipal d'autoriser le recrutement d'agents contractuels pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité dans ces services et de prévoir l'inscription des crédits nécessaires au budget.
Passe au vote. Contre. Abstention. Merci. Point 38.
On va parler de l'avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition d'un agent chargé des fonctions d'inspection, APFI. Donc c'est, on modifie la convention avec le CDG, Centre de gestion des héros, pour une mise à disposition. Jusqu'à présent, sa mise à disposition, c'était une fois par an. Là, cette modification de convention permet de l'avoir une fois sa présence en réunion du CHSCT, une fois en inspection sur le terrain. Ça nous permet de moduler ces interventions, alors qu'avant, c'était vraiment ciblé que sur une.
Passe au vote. Contre. Abstention. Merci. Point 39.
Effectif de la régie du port, définition du profil des CDD, de remplacement d'agents du pôle accueil portuaire. Donc, autorise Monsieur le maire à signer le contrat correspondant et ses reconductions si besoin. L'engagement budgétaire correspond dans les charges de personnel sur le budget annexe du port.
On ne peut pas des fonctionnaires. C'est plus cher, on l'a dit tout à l'heure.
On ne peut pas, on ne peut plus. On peut plus.
Statutairement.
Vous n'avez pas l'invitation ?
Non.
Vous n'avez pas l'invitation ?
Non.
L'invitation interne.
Non. Interne
sur les postes éditifs.
Non.
Ça veut dire qu'on a des fonctionnaires qui partent à la retraite. On est obligé de mettre des contrats de droit privé.
Non. Aujourd'hui, sur la régie, non. C'est-à-dire le remplacement des agents qui sont fonctionnaires peut être assuré par des fonctionnaires. Là, c'est un remplacement en CDD.
C'est
un remplacement d'un fonctionnaire.
C'est pas un... C'est un poste de...
C'est déjà un droit privé. C'est déjà un
droit privé. Le droit
privé. Moi, je trouve, peut-être de loin, hein, je suis pas mis là-dedans, mais je trouve qu'il y a une instabilité entre vos CDD et les fonctionnaires. Et je sais pas pourquoi, je sais qu'ils ont
poussé de... Et les CDD, manifestement, ce ne sont pas des fonctionnaires.
Non, mais je trouve que dans le management, il y a de plus en plus de droits privés, de moins en moins de fonctionnaires, et je ne suis pas sûr que ça ne coûte pas plus cher avec les services rendus, qui croient... Pourquoi c'est... Là, si c'est mieux.
On parle du port.
Oui. Au-delà.
On ne parle pas de la mairie. Si le besoin n'est pas pérenne, on ne peut pas avoir de fonctionnaires.
C'est
ça, le problème.
Vous nous dites que c'est...
Mais vous savez pourquoi, vous savez ce qui se passe, c'est que parfois on a une personne très compétente
exactement.
Et entre temps elle a postulé pour une autre place ou elle a un CDI.
elle serait bien bête de rester, vous comprenez? Elle pense à sa sécurité. On a des gens qui sont bien, trop bien d'ailleurs, pour qu'ils puissent se satisfaire des CDD. D'autant que les CDD, on ne s'amuse pas à faire ce que certains ont pu tenter, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment donné, la législation... Eh oui.
Non,
mais... s'affiniser. Oui.
Puis c'est un métier. C'est un métier, il y a des compétences.
Oui, donc j'entends bien.
C'est Noël, c'est vrai que c'est vrai que c'est, vrai que c'est Noël. Le CDD, s'affiniser, ça passe. Tu vois,
c'est non, mais je, sur le port.
Je suis
pas sûr.
Sur 40.
Allez, on passe au vote, si vous voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Balsamo, port de Cadran.
Port. Actualisation et poursuite du dispositif des compteurs visionnaires électriques. Afin de responsabiliser les plaisanciers sur leur consommation électrique et de générer une réduction de coûts pour le port, il a été instauré en 2018 des compteurs visionnaires pour les navires de plus de 9,50 m. Fort de cette expérience, il vous est proposé d'étendre ce dispositif aux navires compris entre 8,01 m et 9,50 m. Et de valider la grille tarifaire que vous avez dans la libération.
Et voilà. Les gens sont contents de ça?
Et les gens sont contents.
Et pourquoi ils me disent qu'ils ne sont pas contents?
Ben, moi, ils me disent qu'ils sont contents.
Bon, alors moi, je vais voter contre. Je ne veux pas les mêmes. Je ne veux
pas les mêmes.
On avait.
Non,
on avait.
Si, ils me disent, ben, ça, on le sait, il est d'accord.
Non, ce qu'il faut. Ils ont quand ils payent leur redevance, ils ont un forfait jusqu'à 700 kWh, ce qu'ils avaient. Or aujourd'hui, depuis quelques années, on assiste au port à une augmentation de la consommation électrique, parce qu'il y a des gens qui habitent sur le bateau, qui louent leur bateau l'été comme des résidences, etc. Donc on peut plus, nous, maintenant, donc on fait payer les gens qui consomment. Donc au-delà de 700, quand vous lavez votre voiture, vous payez l'eau. Et,
en sachant que cette année, pour faire la transition, ce que je vous disais tout à l'heure, on les a autorisés, dans le forfait, aller jusqu'à 1800 kW.
Donc on peut plus...
Oui. Et là, il y en a quelques-uns qui ont de grosses unités, de gros besoins, et automatiquement, au bout de trois mois d'hiver, ils ont déjà explosé le... Donc ils paient presque 290 euros, la tranche claque. Parce qu'on ne peut pas facturer au kilowattheure. On n'est pas des marchands, on n'est pas distributeurs d'énergie. Allez, si on veut garder un peu d'énergie, il faut monter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, vendu.
Je ne sais jamais.
Pourquoi vous avez l'électricité gratuite chez vous?
Attention. Si vous ne dites pas avec Balsamon, je dis non. Alors, c'est bon. Je peux passer.
Point 41. Avenant à la convention ATC France pour l'implantation de la station hydroélectrique, radioélectrique sur la zone du stockage à terre. Voilà, donc c'est une convention d'occupation du domaine public avec Bouygues Télécom. Donc, il y a un renouvellement de l'autorisation. Voilà. Donc, il est proposé d'acter la prolongation de l'autorisation d'occupation pour un an, le temps qu'on fasse. Qu'on le déplace après au parc à bateau, c'est ça?
Oui.
Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci pour votre participation, messieurs, dames. Il est 21h34.
Ne partez pas, s'il vous plaît, il y a encore un état à signer. Ne partez pas.
Nous avons battu les records de. Et je vous donne rendez-vous.